18h-20h,
votre grand journal du soir. Lionel Gougelot.
Bonsoir et bienvenue à tous. C'est parti pour votre grand journal du soir. Deux heures d'infos, d'analyse et de débat. Toute l'actualité jusqu'à 20h comme d'habitude. À la une ce soir, évidemment, l'épidémie de coronavirus. Elle était inexorable, disait la semaine dernière Emmanuel Macron. Le président prévient. Aujourd'hui, elle n'en est qu'à son début. Ce sera le premier titre de votre journal. Bonsoir Théo Manval.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
18h20, l'invité de la rédaction Patrick Martin. Les patrons et les entreprises françaises face au coronavirus. Catastrophe annoncée ou simple ralentissement, il répondra à nos questions. 18h30, le débat des grandes voix. Deux questions, la campagne des municipales, l'autre victime de ce coronavirus, et pourtant les enjeux sont de taille dans les grandes villes françaises. Et puis l'Italie, ouais. L'Italie sous cloche, est-ce que cela préfigure ce qui se passe dans 15 jours en France? À 19h10, l'invité politique sera Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et puis à 19h30, l'un des secteurs économiques les plus sinistrés dans cette crise, le tourisme, des vols annulés, 25% de réservations en moins chez les tours opérateurs. René-Marc Chicly, le président du syndicat des tours opérateurs, sera notre invité. Et Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1, nous dira quels sont les droits des consommateurs. Toutes vos questions, bien sûr, au 3921. C'est parti, nous écoutons Le Monde Changé ensemble jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut être très clair, lucide.
L'avertissement du président de la République qui s'affiche aux côtés des soignants face au coronavirus. Visite ce matin dans un centre du SAMU alors que le nombre de décès passe à 30 dans l'Hexagone.
Et le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron ainsi que la ministre de la Justice Nicole Belloubet sont actuellement confinés et soumis à des tests. Le virus chamboule jusqu'à l'organisation des bureaux de vote pour les municipales. Reportage à suivre dans ce journal.
Nous irons aussi en Italie où la quarantaine se durcit, pays presque entièrement sous cloche.
C'est une mesure très dure mais qui est nécessaire. Je pense qu'on va réussir et que l'Italie va en sortir plus forte qu'avant.
Dans ce journal également, réquisitoire sans concession au procès Fillon pour détournement de fonds publics.
La nouvelle étape du duel Biden-Sanders dans la primaire démocrate aux États-Unis.
Et puis en plus des tribunes, l'attaque du Paris Saint-Germain sera-t-elle aussi désertée de demain soir? Kylian Mbappé est incertain.
Il n'a pas fait entraînement avec nous les derniers deux jours. Et on doit attendre et décider demain matin.
La Bourse de Paris finit à nouveau en net recul ce soir, moins 1,51% à 4636 points.
La tendance météo, Anissa.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Et bien pour demain, deux temps différents sur la France. Des nuages et de la pluie au nord, du soleil au sud et des températures de plus en plus douces. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Théo Manval, Lionel Gougelot.
La France compte désormais 30 décès liés au coronavirus pour plus de 1600 cas. Et le président de la République a voulu ce matin se montrer à la tâche, Théo.
Aux côtés du personnel soignant dans un centre du SAMU à l'hôpital Necker à Paris, objectif afficher sa mobilisation alors que le nombre de morts continue d'augmenter et avertir aussi cette situation va durer.
Nous sommes qu'au début de l'épidémie et donc la réponse proportionnée, c'est celle avec laquelle on peut vivre durablement. Et il faut d'ailleurs penser aussi à des réponses qui peuvent être, à certains égards, réversibles. Et puis la réponse, il faut assumer qu'elle sera différenciée. Parce que cette épidémie, d'ailleurs comme toutes les épidémies, elle n'est pas la même partout sur le territoire. Et nous assumons d'avoir une réponse qui est différente selon les territoires.
Bonsoir Jean-Rémy Baudeau.
Bonsoir Lionel, bonsoir
du service politique d'Europe 1. La question qui se pose aussi ce soir, c'est comment l'exécutif finalement se protège-t-il lui-même? On sait désormais que plusieurs membres de l'entourage du président sont confinés.
Alors il y a Patrick Strauda, directeur de cabinet du président. Il travaille depuis chez lui car il a été en contact avec une personne malade. Donc il est confiné par précaution. Il y a un autre collaborateur de l'Élysée qui est confiné. Il y a les soupçons sur la garde des Sceaux. Nicole Belloubet attend des résultats d'ici ce soir après une forte fièvre. Et puis il y a les cas révélés, notamment le ministre de la Culture, Franck Riester, testé positif. Il continue lui aussi à travailler depuis chez lui. Au sommet de l'État, en fait, on essaie de dédramatiser. On explique qu'un plan de continuité est en place. Si un ministre ou tout autre collaborateur important est soupçonné ou s'il est malade, il peut immédiatement être remplacé par un binôme. C'est ce qui fait dire au Premier ministre, au micro de Claudia Bertram, que l'État continue malgré le coronavirus.
Les ministres respectent les consignes qui sont adressées et conseillées à tous les Français. Lorsque quelqu'un est malade, il se soigne, qu'il soit ministre ou pas, je vous garantis que ça se passe exactement de la même façon. Et la continuité de l'État est évidemment garantie. La France ne s'arrête pas. La vie démocratique se poursuit.
Voilà, vous entendez un tout petit peu d'agacement d'ailleurs dans la voix du Premier ministre. Je crois qu'il en a un petit peu marre qu'on lui pose la question. La réalité, c'est que la vie démocratique, effectivement, elle continue. Demain, notamment le Conseil des ministres, autour du président où des mesures sont prises. Par exemple, à l'Élysée, plus aucune réunion a lieu dans le bureau du président. Le matériel, jusqu'à ses stylos, tout est désinfecté. Tout est fait pour maintenir aussi des espaces entre les personnes à l'Élysée. Je peux en témoigner, j'étais à une réunion tout à l'heure à l'Élysée avec des conseillers. Les chaises étaient espacées, un peu comme dans les examens. Interdiction de toucher le micro qui circulait dans la salle. Bref, à l'Élysée, on ne badine plus avec les mesures de précaution.
Effectivement, Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Et dans ce contexte, plus d'un Français sur quatre envisage de ne pas aller voter pour les municipales. Premier tour ce dimanche, c'est un sondage IFOP paru ce matin. Les appels à remplir votre devoir civique se multiplient pourtant de tous les côtés de la classe politique. Alors pour rassurer autant que possible les électeurs, les assesseurs des bureaux de vote commencent à s'organiser, comme ici à Dunkerque, Maximilien Carlier.
Des gants en latex pour les plus fragiles, des toilettes et du gel hydroalcoolique à disposition pour se laver les mains et des files d'attente plus aérées. Voici ce à quoi vont ressembler les bureaux de vote à Dunkerque, des mesures sanitaires qui soulagent les habitants.
Ça me rassure totalement, j'irai faire mon devoir électoral. Oui, je pense que c'est une obligation, il faut y aller.
De prendre des précautions, oui, quand même. Parce que si on attrape ça, ben...
Avec tout ce qui est comme maladie qu'il y a maintenant à l'heure actuelle, si, c'est bien.
De la prévention, oui, mais moins de convivialité, le bulletin dans l'urne et on ne traîne pas, comme l'explique le maire de Dunkerque, Patrice Vergritte.
Le but du jeu, c'est de vous faire voter le plus vite possible et non pas effectivement de prendre le temps de pouvoir voter. Le président du bureau de vote ou le préposé au bulletin ou l'assesseur ne tendra pas la main pour serrer la main, ce qui en général n'est pas toujours le cas quand on tient un bureau de vote, on est plutôt content de voir les gens plutôt qu'être dans l'efficacité. Voilà un petit peu comment ça va fonctionner.
Et la municipalité demande aux votants de ramener leur carte d'électeur pour les trouver plus vite dans les registres. Autre consigne, pensez à prendre votre propre stylo pour signer, évitez d'en manipuler un autre. Dunkerque, Maximilien Carlier, Europe 1.
Au niveau mondial, les bourses n'ont pas vraiment repris des couleurs aujourd'hui. Après les lourdes chutes d'hier, le CAC 40 perd 1,5%. Très légère hausse à Londres et à New York.
Les dirigeants européens sont réunis en ce moment par visioconférence pour coordonner leurs efforts face au virus. La Chine assure elle être en train de juguler l'épidémie. Les restrictions de déplacement sont en partie levées après un mois et demi dans la province la plus touchée autour de Wuhan.
Alors en Europe, l'Italie, elle, renforce encore ses mesures de confinement. Mathieu Bock, vous êtes notre envoyé spécial. La place Saint-Pierre au Vatican à Rome est désormais fermée aux touristes. Et tout le pays, finalement, s'aligne sur les mesures qui ont déjà été prises à Milan. Où vous vous trouvez, Mathieu ?
Oui, fermeture de tous les lieux touristiques dans le pays. Plusieurs compagnies aériennes comme Air France, mais aussi Ryanair ou encore Wizz Air suspendent leurs vols vers l'Italie. L'Espagne a également coupé toutes ses liaisons vers le pays. Chaque voyageur qui voudra prendre un avion ou un train devra présenter aux militaires un laissez-passer. Partout, désormais, de Milan à Rome jusqu'en Sicile, les restaurants, les bars, les discothèques ont obligation de fermer à 18h. Tous les événements sportifs de tout niveau sont également suspendus. Des mesures choc que subissent déjà les Milanais depuis plusieurs jours, des habitants, vous allez l'entendre, qui se veulent pragmatiques.
C'est une situation qui va arriver dans d'autres pays du monde. C'est une mesure très dure, mais qui est nécessaire. Je l'accepte, hein, car le pays fait tout son possible pour s'en sortir. Je pense qu'on va réussir et que l'Italie va en sortir plus forte qu'avant.
Nous, on est sortis aujourd'hui, car on avait une chose urgente à faire. Mais dorénavant, on va rester à la maison. Il faut rester à la maison.
Bon, c'est nécessaire. Il n'y a pas de discussion et probablement c'est arrivé même un peu tard. Il fallait prendre des mesures plus dures et précises, surtout un peu plus en avant.
Et Mathieu Bock à Milan, Mathieu, ces mesures pourraient encore se durcir.
Oui, car le président de la région Lombardie a demandé au gouvernement cette fois de vraiment tout arrêter pendant deux semaines. Les transports en commun qui circulent encore ici comme dans tout le pays, fermeture de tous les magasins sauf les supermarchés et les pharmacies, toutes les administrations, toutes les entreprises, absolument tout. Le gouverneur de la Vénétie qui est sur la même ligne se justifie ainsi. Plutôt que de prolonger une agonie qui dure des mois, il vaut mieux une fermeture totale pendant deux semaines afin de bloquer définitivement la progression du virus.
Merci à vous Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Milan. Et notez qu'en Sicile, 48 personnes ont été verbalisées ce matin pour avoir suivi un cortège funéraire malgré l'interdiction des rassemblements. Elles risquent 200 euros d'amende et jusqu'à 3 ans de prison.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Théo Manval et Lionel Gougelot.
À suivre dans votre journal de 18h, les réquisitions qui viennent de tomber au procès du couple Fillon.
Et puis la primaire démocrate aux États-Unis, on vote dans 6 nouveaux États ce soir et l'angine qui inquiète en football pour Kylian Mbappé.
2 heures d'infos pour écouter le monde changer, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Théo Manval et Lionel Gougelot.
François Fillon ne doit ses déboires politiques qu'à ses propres turpitudes. Les mots très durs cet après-midi du procureur financier lors des réquisitions au procès Fillon.
Au procès du couple Fillon et de l'ancien député Marc Joulot, jugé notamment pour détournement de fonds publics. Salomé Legrand, vous suivez l'audience pour nous. Les réquisitions viennent donc de tomber. Elles sont lourdes, 3 ans de prison avec sursis demandés à l'encontre de Pénélope Fillon et 5 ans dont 2 fermes à l'encontre de François Fillon.
Eh oui, des réquisitions à la hauteur de faits qui ont aggravé la déchirure du pacte républicain d'après le parquet national financier. Après avoir balayé l'argument de la séparation des pouvoirs invoqué par François Fillon, les collaborateurs parlementaires sont des salariés comme les autres employés par des élus qui se doivent d'être exemplaires. Le procureur a méthodiquement pilonné la défense du couple dont il dénonce les habitudes de longue date de captation du crédit collaborateur avec un emploi, je cite, « inconsistant ». Quel salarié ne saurait décrire ses tâches, interroge Aurélien Létocard, qui qualifie celle péniblement racontée par Pénélope Fillon à la barre d'impalpable et de désincarnée. Si le parquet national financier reconnaît à celle-ci un intérêt certain pour la vie locale sartoise, il pointe la mauvaise foi de la défense qui grossit la moindre interaction de Pénélope Fillon sur place, triant le courrier ou faisant les courses. Il décrit une épouse attentive, présente, mais pas plus, un soutien personnel, loin de toute activité professionnelle, martèle encore le parquet. Sur le banc, elle est immobile, lui hoche la tête, exaspérée. Quant à son rôle auprès de Marc Joulot, elle travaillait moins, mais gagnait plus, tacle le procureur, qui cite François Fillon lui-même en guise de conclusion. En 2014, à Cannes, celui-ci disait « La politique ne sert pas à se servir, mais à servir les autres. Ce serait cocasse si ce n'était si tragique ». Et si cynique.
Salomé Legrand, en direct du tribunal correctionnel de Paris pour Europe 1.
À direction les États-Unis à présent, où un nouveau vote de taille a lieu ce soir dans la primaire démocrate pour la prochaine présidentielle.
On vote en effet dans 6 États, dont le Michigan et l'État de Washington. Xavier Yvon, avec un enjeu très simple. Est-ce que l'ancien vice-président Joe Biden va réussir à prendre l'avantage dans son duel sur Bernie Sanders ?
Ah oui, c'est la question. Depuis une semaine et sa résurrection lors du Super Tuesday, Joe Biden est lancé et il veut distancer définitivement Bernie Sanders. Il fait déjà la course en tête en nombre de délégués et dans les États qui votent aujourd'hui, il est loin devant dans les sondages, notamment dans le Michigan, très important parce que c'est normalement un bastion du vieux sénateur socialiste. Depuis une semaine, Joe Biden a vu tout le parti démocrate s'aligner derrière lui, notamment 4 ex-candidats rivaux qui ont annoncé leur soutien à l'ancien vice-président. Tous pensent que Joe Biden est le mieux placé pour battre Donald Trump en novembre. C'est l'objectif numéro 1, voire quasiment le seul objectif des démocrates. Pour inverser la vapeur, Bernie Sanders affirme au contraire que Joe Biden, le candidat des élites, c'est la recette à perdre contre Donald Trump. Écoutez.
Une campagne comme celle de Joe, qui est franchement la même rengaine de l'establishment politique, soutenue par les riches, par les sénateurs, par les gouverneurs. Est-ce que quelqu'un pense vraiment que ça va être la campagne d'enthousiasme et d'énergie qui va élargir notre base, dont nous avons besoin pour battre Trump ? Je ne le pense pas, et je le dis en tant qu'ami de Joe.
Et Bernie Sanders le répète devant des foules immenses, 10 000 personnes hier dans le Michigan. Pas sûr que ça suffise. Sur Twitter, Donald Trump a déjà pronostiqué une très mauvaise soirée à venir pour celui qu'il surnomme Bernie le Taré.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1, en direct des États-Unis. En Russie, Vladimir Poutine va-t-il réussir à se représenter pour 2 mandats supplémentaires après 2024 ? Les députés russes ont adopté ce matin sa réforme constitutionnelle qui remet, selon lui, les compteurs à zéro. La Cour constitutionnelle russe doit encore donner son aval.
Et ce sera d'ailleurs l'objet de la chronique Demain dans le Monde, hein, tout à l'heure avec Didier François à 19h20. Le football, enfin, à la veille du 8e de finale, retour de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain contre Dortmund. Cette nouvelle épine dans le pied des Parisiens.
Bonsoir Théo. Julien Froment.
Bonsoir.
C'est la fièvre des grands soirs à Paris, mais pas dans le bon sens du terme. Déjà privé de public pour cause de coronavirus, Paris risque de voir de se passer de Kylian Mbappé.
Oui, un gros chat dans la gorge du champion du monde français. Son entraîneur Thomas Tuchel a donné quelques nouvelles il y a quelques minutes et elles ne sont pas spécialement rassurantes pour Kylian Mbappé.
Kylian est malade, était malade hier et aujourd'hui avec un angine. Et on essaye de faire peut-être un petit peu d'entraînement aujourd'hui, pendant le soir, mais il n'a pas fait d'entraînement avec nous les derniers deux jours. et on doit attendre et décider demain matin.
Mbappé pourrait donc se tester ce soir lors de l'ultime entraînement des Parisiens. L'attaquant est en pleine forme en plus ces dernières semaines. Il a inscrit 30 buts en 32 matchs. Vu le contexte actuel, le Paris Saint-Germain n'avait vraiment pas besoin de ça. Verdict demain matin.
Alors rassurez-moi Julien, il reste quand même des joueurs valides dans cet effectif.
Oui, pour le reste, l'effectif est quasi au complet. Thiago Silva, qui était annoncé quasi forfait finalement, eh bien, a de grandes chances de disputer le match demain. Il a participé aux deux derniers entraînements collectifs. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est Neymar. Il est enfin disponible.
Ouf.
C'est la première fois depuis son arrivée en 3 ans eh bien, qu'il va jouer un 8e de finale retour de la Ligue des Champions avec le PSG. Comme quoi, tout n'est pas encore perdu pour Paris, qui espère eh bien, demain mettre Dortmund en sourdine.
Merci Julien Froment. Et j'ajoute que c'est confirmé, tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 en France se joueront à huis clos et aussi jusqu'au 15 avril prochain, de même que les deux prochaines rencontres de l'équipe de France à la fin du mois à cause du risque de coronavirus.
Un match en sourdine à huis clos, il fallait le noter quand même pour Julien Froment. On le relèvera.
C'était
le journal de Théo Manval. Merci Théo. À tout à l'heure, 18h30 pour le rappel des titres. La météo, Anissa.
Oui, avec
une perturbation qui arrive sur la France.
C'est ça, exactement. Une perturbation qui arrive et qui va pas franchement se déplacer sur la France. Elle va même plutôt stagner demain. Alors, de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie, le Cotentin, eh bien, vous aurez des pluies soutenues dès le début de la journée, demain, sous un ciel très couvert. Des pluies qui vont même s'intensifier dans cette région, dans l'extrême nord, demain après-midi. Plus au sud, de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes, en passant par les Pyrénées, le Golfe du Lion, la Côte d'Azur et la Corse, eh bien là, le ciel est dégagé, vous aurez une très belle journée demain au sud avec de très beaux rayons de soleil. Partout ailleurs, entre ces deux zones, l'extrême nord et le sud, eh bien, des pays de la Loire aux Ardennes, de la Gironde jusqu'aux Alpes, eh bien là, le ciel est nuageux avec des averses qui vont rythmer votre journée. Le vent d'ouest va souffler encore sur le nord-ouest. Et puis au sud, le Mistral et la Tramontane soufflent, mais beaucoup moins fort. Les températures, elles sont douces et elles remontent 6 à 10 degrés au sud demain matin, 10 à 11 au nord. Dans l'après-midi, nous aurons 13 à Brest et à Lille, 15 à Nantes et Nancy et 16 à Paris. Et puis nous avons actuellement 6 départements placés en vigilance orange crue inondation. Attention si vous nous écoutez dans le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l'Eure, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et la Gironde.
Europe 1.
À suivre, Lionel Gougelot.
L'invité de la rédaction ce soir, Patrick Martin, président délégué du MEDEF. L'économie française à l'épreuve du coronavirus.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h, c'est avec Lionel Gougelot sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Lionel Gougelot. Et vous recevez ce soir Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Et cette question que beaucoup se posent, quelles sont les conséquences économiques avec cette crise du coronavirus ?
Bonsoir Patrick Martin.
Bonsoir.
La crise du coronavirus est-elle aussi dangereuse pour l'économie française que ne l'a été la crise de 2008 ?
Elle est aussi dangereuse. Elle prend une forme différente. Elle a un impact direct à travers la désorganisation du travail, des salariés qui, à bon droit, exercent leur droit de retrait ou sont invités à rester chez eux de la part des entreprises ou doivent garder leurs enfants. Enfin voilà, il y a toutes sortes de désorganisations qui se mettent en place. Il y a des secteurs entiers qui sont rudement affectés. On les connaît, je les rappelle quand même, l'événementiel, l'hôtellerie, la restauration, les transports publics. Et puis il va y avoir des effets induits qui apparaîtront progressivement parce que toute la chaîne logistique, en particulier depuis la Chine, a été désorganisée. Et ça, on ne le perçoit qu'au fil du temps.
Quelles sont vos principales craintes pour l'avenir, les semaines qui viennent ?
C'est déjà que sur le plan sanitaire, l'épidémie soit endiguée. Notre analyse est que le gouvernement prend les bonnes mesures en termes de technicité, mais également en termes d'ampleur. Mais ça va continuer à monter en puissance. La désorganisation économique va continuer à monter en puissance. Il y a des dispositions qui sont prises qui nous paraissent bonnes pour accompagner les entreprises en difficulté. On peut les détailler.
Vous avez rencontré justement des représentants d'entreprises en difficulté cet après-midi, si mes informations sont exactes, dans le département de l'Oise. On va y revenir dans un instant. François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, parle d'une mise à l'arrêt de l'économie française.
Écoutez, j'ai le plus grand respect pour lui. Je ne le souhaite pas. Mais en plus, je ne le crois pas, parce que quand on observe l'activité de nos adhérents aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, ils continuent à fonctionner tout à fait normalement. Je le redis, il va y avoir des effets progressifs liés à la désorganisation de la chaîne logistique. Mais pour l'instant, on n'est pas à l'arrêt. Notre pronostic, c'est que l'économie ne s'arrêtera pas.
Les entreprises, les chefs d'entreprise que vous avez rencontrés aujourd'hui dans le département de l'Oise, justement, département on ne peut plus toucher par cette épidémie, quel est leur sentiment, quel est leur état d'esprit, qu'est-ce que vous avez observé sur le terrain?
Alors, je me suis avec d'autres rendu dans l'Oise, non pas par provocation, non pas pour tenter le diable, mais pour d'abord envoyer un message de soutien aux entrepreneurs de l'Oise qui, eux aussi, dans l'immense majorité des cas, continuent à travailler normalement. Et puis pour signifier que quand on prend un certain nombre de précautions, eh ben on peut continuer à travailler, on peut continuer à vivre normalement. Alors, il y a malgré tout une inquiétude, je le redis, très concentré, mais très violemment concentré sur certains secteurs d'activité. Ce sont ceux-là qu'il faut que l'État, les organismes sociaux aident et aident extrêmement vite et extrêmement fort.
Bruno Le Maire a annoncé hier des premières mesures, hein, c'est-à-dire notamment le report des charges sociales, des dégrèvements d'impôts directs pour les entreprises qui seraient par exemple menacées carrément de disparition parce que c'est le cas pour un certain nombre d'entre elles, des mesures de chômage partiel. Ça suffit, il faut plus.
Non, si vous voulez, ce n'est pas d'une lance à incendie dont on a besoin, c'est cette canne à d'air hein, pour ces entreprises. Je veux dire par là que, par exemple, les garanties qui sont renforcées de la part de BPI à hauteur de 70% des crédits de trésorerie doivent être portées à 90%.
La banque d'investissement. Hein.
La banque d'investissement. Il ne faut pas proposer un étalement des charges sociales pour les entreprises qui affichent, et malheureusement elles existent, des baisses de chiffre d'affaires extrêmement violentes. Il faut carrément supprimer les charges sociales. Donc il faut aller plus loin que ce qui a été prévu jusque-là. Et toutes nos organisations sont à disposition, tous les MEDEF territoriaux, les 122 MEDEF territoriaux sont à disposition de leurs adhérents. Et on communique quotidiennement, on va encore le faire demain sous forme de visioconférence avec des entreprises, avec nos adhérents. Il y a un devoir d'information pour ces entrepreneurs qui, à bon droit, s'inquiètent. Donc il faut les rassurer quand c'est possible, et c'est souvent possible. Et puis il faut leur donner les solutions quand elles existent, et elles existent.
On observe également une mobilisation des collectivités locales en région hein, pour soutenir les entreprises, notamment les PME. Les chambres de commerce également vont se mobiliser dans les jours et les semaines qui viennent. C'est ça qui va permettre de résister, Patrick
Martin ? Bien sûr, mais il faut des réponses dans l'urgence. Si vous voulez, il ne faut pas qu'il y ait des délais d'instruction de la part de l'État, de la part de l'URSSAF, de la part de la BPI qui s'échelonnent sur plusieurs semaines ou pire sur plusieurs mois, parce que plus vite on traitera le cas des entreprises qui sont touchées, plus vite on évitera la propagation de ces difficultés avec des effets en chaîne, des impayés, des perturbations dans la chaîne logistique, je le redis. Donc il y a un degré d'urgence qui est réel. Il faut, je le redis, un canadair.
Le gouvernement allemand débloque une somme considérable, 12,8 milliards d'euros pour le soutien de l'économie allemande. Il faut la même chose en France ?
Il faut la même chose en France, avec, même si la période ne se prête pas à la polémique, une grosse différence, c'est que l'État allemand a géré vertueusement son budget, a des réserves financières que l'État français a lui-même dilapidé, y compris dans la période récente. Donc les marges de manœuvre de l'État français sont moindres. Elles existent malgré tout.
2019 a été un bon cru pour l'emploi en France, Patrick Martin. 260 000 créations d'emplois, les chiffres ont été publiés aujourd'hui. C'est 100 000 de plus hein, que par rapport à l'année 2018. Est-ce que ce virus va tout mettre par terre ?
Le virus va fortement perturber la croissance. On est incapable de dire à ce jour quelle sera l'ampleur du ralentissement. La Banque de France elle-même s'est exprimée. Mon pronostic, c'est qu'il y aura un effet brutal, violent, de l'ordre d'un trimestre, peut-être un semestre, mais qu'ensuite les fondamentaux de l'économie reprendront et qu'on effacera progressivement, sauf dans les secteurs qui ne pourront pas retrouver les chiffres d'affaires qu'ils ont perdus, on effacera progressivement l'effet de cette crise.
Pas de spectre de récession ?
Alors, on joue à se faire peur en ce moment.
Et oui, vraiment, vous avez ce sentiment-là ?
Écoutez, les surréactions boursières, de ce point de vue, sont édifiantes. Non, il y a un mal profond, il y a une propagation mondiale de cette épidémie. Donc, il ne s'agit en aucun cas de la sous-estimer. Mais enfin, on a une économie robuste, on a des entrepreneurs qui embauchent, qui investissent. Et moi, je crois à la résilience des entreprises en particulier, et puis même de la sphère publique.
Si les mesures, et je vais vous demander de répondre en quelques mots, Patrick Martin, si vous le voulez bien, si les mesures de confinement sont élargies sur le territoire français, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va aggraver la situation ?
Bien sûr que ça l'aggravera. Mais si elles sont élargies, à nouveau, je trouve que le gouvernement adapte très bien ces dispositifs. Si elles sont élargies, c'est qu'elles doivent être élargies. Il vaut mieux éradiquer l'épidémie le plus vite possible.
Merci Patrick Martin.
Merci
président du délégué du MEDEF. Merci d'avoir été l'invité, d'être passé dans les studios d'Europe 1 ce soir, Anissa.
Europe 1. Et votre grand journal du soir se poursuit avec au programme Lionel.
Le débat des grandes voix, bien sûr. On ne va pas manquer ça au programme ce soir. Les élections municipales et les élections municipales dans tout ça, me direz-vous. Seront-elles les autres victimes de cette crise sanitaire ? Est l'Italie sous cloche pour cause de virus ? Est-ce que cela préfigure de ce qui se passera en France dans les prochains jours ? Vos questions, vos réactions au 39-21 et tout à l'heure avec les grandes voix.
Vous pouvez également interpeller les grandes voix sur Twitter. On lit vos messages et vos questions avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h avec Lionel Gougelot. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Lionel Gougelot.
Les grandes voix d'Europe 1 dans un instant, ils sont déjà dans ce studio, mais avant le rappel des titres de l'actualité, Théo Manval.
2 ans de prison ferme requis contre François Fillon, 3 ans avec sursis contre son épouse Pénélope. Réquisition sévère du parquet national financier ce soir dans le procès pour détournement de fonds publics. Le PNF qui réclame aussi 10 ans d'inéligibilité. 1606 cas de coronavirus confirmés en France et 30 décès. Dernier bilan des autorités de santé ce soir. L'Italie enregistre, elle, 168 nouveaux décès. C'est un record en 24 heures. Air France suspend tous ses vols vers le pays. Enfin, une prouesse majeure dans la lutte contre le sida. Un deuxième patient est aujourd'hui guéri, 10 ans après la première réussite mondiale. On y revient en détail dans le journal de 19h.
J'allais vous le dire. Merci Théo. À tout à l'heure à 19h pour un journal complet. La tendance météo, Anissa. 6 départements sont en vigilance orange.
Oui, effectivement, vigilance orange, crue, inondation, Lionel, ce soir pour ces 6 départements, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l'Eure, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et la Gironde. Soyez extrêmement prudents dans ces départements. Surtout le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et l'Eure parce qu'on attend encore de la pluie demain. Effectivement, une nouvelle perturbation va traverser le pays. Elle va rester quand même assez longtemps tout au long de la journée sur l'extrême nord du pays, la Bretagne, le Cotentin, les Hauts-de-France. À l'extrême sud, des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur, là c'est du grand et beau soleil. Et entre les deux, eh bien, c'est une journée agitée avec un ciel gris et quelques averses qui vont rythmer votre journée. Les températures, elles remontent et elles sont douces. Demain, comptez 13 à 24 degrés demain après-midi.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Et vous le savez, c'est une tradition jusqu'à 19h. C'est le débat des grandes voix avec ce soir autour de vous Lionel Gougelot, Catherine Ney, Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia et Charles Villeneuve.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Merci d'être autour de la table d'Europe 1 comme tous les soirs. On va se poser une première question ce soir, si vous le voulez bien. Évidemment, à propos du coronavirus, mais sous l'angle des élections municipales. Charles Villeneuve, est-ce que ces élections municipales ne sont pas les autres victimes de cette crise sanitaire du coronavirus ? Elles vont avoir lieu tant bien que mal. Le gouvernement a-t-il eu raison de les maintenir, ces élections ?
Moi, je crois, oui. Je crois d'abord parce que la décision, de toute façon, n'est plus possible maintenant. Vous savez qu'il faut une loi, il faut que cette loi soit soumise au Conseil constitutionnel, etc. Évidemment, ça demande un filtre près d'un mois. Donc, les élections municipales auront lieu. Alors, victimes, oui, relativement, oui, puisque un dernier sondage nous dit que 28% des gens hésitent d'aller voter.
À cause du virus, à cause de la peur du virus.
Évidemment, à cause de la transmission du
des risques de contagion.
Voilà, du risque de contagion. Donc, c'est sûr qu'elles seront atténuées. Est-ce que le résultat sera discuté ? Je ne crois pas, ça fait partie des vicissitudes, si vous voulez, de la vie en commun.
On va voir s'il y a effectivement des répercussions sur la participation aussi. Ça peut, d'une certaine façon, fausser le résultat. Catherine Ney, ces élections municipales coûte que coûte, là aussi, il fallait les tenir.
Oui, d'ailleurs, à un moment où le pic, on était très loin du pic de l'épidémie, moi je pense qu'on pouvait encore... Enfin, j'espère, à la vitesse à laquelle avance l'épidémie, je pense que c'était peut-être difficile de reporter, ouais. Parce que autrement, il aurait fallu peut-être reporter de 6 mois à 1 an, attendre. Donc, moi, je pense que c'était peut-être too much de faire ça. Mais c'est vrai que ça peut changer quand Charles dit que 28% des Français s'interrogent. Ce qui est le plus curieux, c'est que ça ne sont moins les personnes âgées qui sont, d'après ce sondage, qui hésitent à aller voter, que des jeunes qui, en général, ne votent pas, votent moins que les autres. Ils sont 40% à dire que peut-être ils n'iraient pas voter. Or, si 40% des jeunes, déjà peu enclins à voter, ne se précipitent pas, enfin, ne vont pas aux urnes, eh bien, c'est vrai que ça peut impacter plus les écologistes, la gauche, qui sait que la droite. Enfin, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça va changer le profil des résultats ? Voilà, c'est toute la question.
Un sentiment là-dessus, Alexandre Malafaï
Ça va forcément avoir une conséquence sur le nombre de votants. Donc, forcément, ça aura un impact sur le résultat. Sachant que si le gouvernement avait pris la décision d'annuler en l'état actuel, si je puis dire, du péril, tout le monde aurait hurlé à la manipulation, au scandale, parce qu'effectivement, la séquence n'est pas très favorable pour La République En Marche en France. Donc voilà, il fallait maintenir. En même temps, ça nous dira quelque chose quand même de la résilience de la nation. C'est un bon test, si je puis dire. On a un problème problème, mais il est relatif. Il faut aussi remettre les choses à leur place.
Surtout
comme on dit.
Pour un scrutin favori des Français. Quoi.
Oui, exactement. Ah oui, sachant que bon, les risques de contamination dans leur voté sont ce qu'ils sont. Et puis, je rappelle, tous les jours, malheureusement, en France, on perd 1500 personnes. C'est ça la réalité de la mortalité en France. Et là, on est sur, à chaque fois, chaque jour, 5 personnes, 10 personnes qui partent. Mais donc voilà, il y a une réalité qui est un peu différente de celle qu'on nous dépeint en permanence.
Voilà, le décor est planté. On en reparle dans un instant. Une première pause publicitaire et on revient dans un instant.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Lionel Gougelot. Et jusqu'à 19h, c'est le débat des grandes voix avec autour de vous ce soir Lionel, Catherine Ney, Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, et Charles Villeneuve et toutes vos réactions au 39-21.
Eh bien justement, Patrice nous a appelé au 39-21. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Paris. Je crois que je peux le dire, Patrice, vous avez 71 ans et vous allez aller voter coûte que coûte dimanche prochain.
Absolument. Déjà, ça me coûtera assez peu parce que j'habite en face du collège, qui est mon bureau de vote. Ensuite, ma foi, il y aura du monde comme d'habitude. Et puis, au moins, peut-être bien que j'apporterai mon soutien au financement des caisses de retraite si je chope le coronavirus.
Mais est-ce que vous pensez que tout est fait pour que justement ce scrutin se déroule dans les bonnes conditions ?
Je pense, oui. Je pense d'abord parce qu'il n'y a pas que des vieux comme moi. Il y a aussi des jeunes qui résistent extrêmement bien. Et puis, il semblerait que toutes les précautions soient prises. Et puis, un collège tel que je connais les gens depuis un moment, qui est capable de résister à tous les enfants qui vont dedans et à de sacrés numéros, est capable de résister à tout.
Bon, donc vous ne cédez pas à la panique, Patrice, et c'est tant mieux. Merci pour votre appel. Donc, tout est bien organisé, Charles, pour ces élections municipales. En fait, on peut dire que les municipalités mettent le paquet, hein, c'est vrai.
Oui, absolument. Mais je pense que dans plusieurs municipalités, maintenant, un peu moins peut-être dans les grandes villes, mais vous savez, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les équipes municipales, notamment celles qui sont en place, pour aller chercher notamment les votants. Et notamment, je me répète, les personnes âgées. Les personnes âgées qui, de toute façon, croient encore au crédit de la parole politique, ce qui est moins vrai chez les jeunes. Et je pense que l'une des raisons fondamentales de la statistique que vous disiez tout à l'heure, celle qui indiquait que les jeunes allaient moins voter que les personnes âgées, tient aussi à ça.
Alors, non, mais ce qui est intéressant, Catherine, c'est que pour la première fois, à 5 jours de l'élection, le ministre de l'Intérieur a indiqué dans un télégramme à tous les préfets que toutes les personnes malades ou confinées pouvaient faire appel à un officier ou un agent de police judiciaire pour venir recueillir à domicile une procuration. Mmh. Ça veut dire qu'ils vont être drôlement mobilisés.
Des procurations dans les maisons de retraite également.
Oui, et dans les établissements, dans les EHPAD, même une personne pourra se rendre à domicile avec une urne, enfin voilà, pour leur dire, et des bulletins de vote pour les faire voter.
Ouais. Si la situation s'aggrave entre les deux tours, Alexandre Malafaille.
On verra. Tout est possible à ce stade. Moi, je trouve c'est qu'il faut que les gens aillent voter d'une part parce que c'est pas plus dangereux d'aller au supermarché ou chez le boulanger ou à la pharmacie que d'aller voter dimanche.
C'est vrai.
Voilà. Donc non, mais il faut juste ramener là encore les choses à leur stricte réalité. Et donc il faut aller voter. Ensuite, je voudrais dire à vos auditeurs, c'est que quand même l'élu qui fait son métier en France avec encore une crédibilité et un rôle majeur et que tout le monde peut percevoir en situation de crise, justement, c'est le maire. Ce sont les équipes municipales. Vous avez 500 000 élus locaux qui sont présents au quotidien des Français, 35 000 maires qui se battent, qui sont là, qui assurent ce lien essentiel finalement de la continuité de l'État et de la nation dans ce genre de situation. Dimanche, les soutenir, aller voter pour leurs adversaires. Enfin, on n'est pas là pour réélire les sortants, mais en tout cas, on est là pour aller manifester son engagement. Ça fait sens, voilà. Après, l'entre-deux-tours, on va voir la crise. Elle est en train de monter en puissance. On va voir les chiffres. Ne donne pas une tendance claire. On voit bien que ça évolue jour en jour, mais on n'est pas dans une dynamique exponentielle. Donc l'entre-deux-tours peut être très perturbé si on passe à 10 000, 20 000, 30 000 cas. Si on reste sur cet étiage-là, globalement, on va passer la vague.
Alors, et puis le vote municipal n'est pas le vote législatif ou le vote présidentiel. Le vote municipal tient à la personnalité du maire, à son bilan, à son équipe ou personnalité qui l'entoure. C'est un vote spécifique. Donc les enseignements politiques à tirer, si vous voulez, des municipales est légèrement différent et plus subtil que les autres élections.
Alors, moi, je crois même que dans cette période d'inquiétude, les Français iront voter pour des valeurs sûres. Et la valeur sûre dans leur ville, c'est souvent le maire sortant, parce qu'ils le connaissent, ils savent ce qu'il a fait dans la ville, ils les protègent. Et moi, au contraire, que ça va beaucoup favoriser les maires sortants.
Alors, cette crise du coronavirus, ouais, elle a un peu éclipsé, je dirais, des enjeux politiques primordiaux, d'un point de vue donc, politique, pour les futurs résultats, pour les trois plus grandes villes françaises, Paris, Lyon, Marseille. Finalement, est-ce qu'on n'est pas passé un petit peu à côté de ces grands enjeux politiques avec des figures importantes, Charles ?
Ces trois grandes villes, elles ont en commun qu'on est dans une fin de cycle quasiment sur les trois villes. Peut-être un peu moins avec Hidalgo, mais enfin, ça fait 20 ans que la gauche s'est emparée de la mairie de Paris. Ça fait 20 ans, si vous voulez, que pendant 20 ans, Colomb a été maire et lui aussi est en difficulté, beaucoup plus. Peut-être qu'on ne le suit pas attentivement et qu'on n'en parle pas assez suffisamment, en tout cas dans le Rhône, en Rhône-Alpes, on en parle beaucoup. Il est en difficulté. Et puis à Marseille, évidemment, Godin a jeté l'éponge puisque lui s'en va au bout de 25 ans. Mmh. Et c'est très ouvert à Marseille. Hier, il y a eu un sondage, vous l'avez peut-être vu, qui a été diffusé dans le Provençal, la Provence, pardon. Ça va être très disputé. Ça se décidera au deuxième tour, même s'il semble que la candidate des Républicains, Martine Vassal, tienne le bon bout.
Catherine, les Français sont attentifs aux résultats de ces grandes villes où ça risque de passer, pardonnez-moi l'expression, mais un peu par perte des profits.
De loin, non, mais ce qui va être intéressant, c'est savoir si le passage au gouvernement de Gérard Collomb va être sanctionné par les électeurs. Mais il n'est pas candidat à sa succession à la mairie. Mmh. Il est candidat à la métropole. Et ce qui va aussi beaucoup impacter cette élection, c'est que dans 59 communes, dont Lyon évidemment, les électeurs doivent voter deux fois, à la fois pour leur mairie et puis aussi pour la présidence de la métropole. Donc ça peut un peu les compliquer le jeu.
Alexandre Manafaï.
Il est évident que, d'une manière globale, on va regarder parce que c'est emblématique, parce qu'il y a des personnalités, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'on aime bien aussi le théâtre qui va autour de tout ça et que ça fait partie de la tradition française. Après, dans la vraie vie, c'est quand même trois villes. Ça représente certes 3 à 4 millions d'habitants, sans compter les métropoles. Il y a 35 000 communes en France. Et pour le coup, c'est vraiment un scrutin où on est quand même concerné en direct. Et je dirais que c'est vrai qu'on parle beaucoup, même si en ce moment on en parle un petit peu moins, des grandes villes, des grandes métropoles. On a fait de gros focus sur Paris. D'ailleurs, c'est la seule ville qui a eu droit à son grand débat, si je puis dire. Et il y aura un grand débat d'entre deux tours avec les deux finalistes, ou les trois finalistes en fonction de la configuration. Mais en fait, on parle très peu des communes de taille intermédiaire, on parle très peu des maires ruraux, des territoires. Or, c'est là aussi qu'une grande partie de l'avenir se joue, parce que c'est là que se construisent aujourd'hui les fameuses fractures.
Et c'est là que les équilibres politiques se font dans les territoires. On marque une pause, si vous le voulez bien, parce qu'il faut qu'on parle, de l'Italie, les grandes voies, ce pays sous cloche, avec cette question, est-ce que c'est ce qui nous attend en France dans les prochaines semaines ? On marque une pause, on revient tout de suite.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Lionel Gougelot sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix et autour de vous ce soir, Lionel Gougelot, vous recevez Catherine Ney, Alexandre Malafaï, fondateur du think tank Sinopia et Charles Villeneuve.
L'Italie, c'est quand même l'image du jour, les grandes voix. L'Italie en quarantaine, l'Italie sous cloche, 60 millions d'habitants confinés dans leur pays. Et la première question qu'on peut se poser ce soir, ce qui se passe en Italie, est-ce que c'est ce qui nous attend en France dans les prochaines semaines, surtout quand on écoute Emmanuel Macron ce midi à l'issue de sa visite au SAMU de l'hôpital Necker.
Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Nous avons anticipé, nous nous sommes préparés et à chaque moment de la phase montante et de cette épidémie, nous saurons adapter la réponse pour apporter justement les réponses que nos concitoyens sont en droit d'attendre.
Emmanuel Macron avait annoncé une épidémie inexorable en France la semaine dernière. Vous vous souvenez de ce terme ? Aujourd'hui, il annonce que cette épidémie ne fait que commencer. Le plus dur est à venir, Catherine ?
Oui, le plus dur est à venir, mais à quel niveau ? Si vous voulez, avec quelle montée des victimes et des morts ? Hier soir, sur BFM, le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait des croquis pour expliquer qu'il
explique deux courbes
qui montraient une courbe qui allait monter, mais doucement, ne pas monter aussi haut que celle italienne pour redescendre doucement. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement pense que, avec les mesures barrières, qui sont très simples, comme de se moucher dans du papier, ne pas serrer les mains, pas de contact et tout ça. Déjà, on prévient beaucoup la maladie dans la singularité et c'est une contagion formidable. Mmh. D'ailleurs, j'ai été étonnée de voir que la maladie, enfin l'épidémie qui a pris plus tôt en Italie, a annoncé ces mesures barrières de prendre que récemment, ouais. Après la France. Bon. Mais le problème, est-ce qu'on peut comparer l'Italie et la France ?
C'est toute la question.
L'Italie a un système, de hôpital avec beaucoup d'hôpitaux de pointe. Mmh. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont engorgés, ils ne peuvent pas répondre à la demande, ils sont obligés de faire des choix entre les malades. Donc le problème, on n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est pas là aujourd'hui en France.
Charles Villeneuve, Emmanuel Macron prépare tout doucement les Français au passage au stade 3, la fameuse phase 3.
Oui, d'ailleurs, il y a un paradoxe, c'est-à-dire dans la manière dont, si vous voulez, les autorités françaises s'y prennent. Mais en même temps, je trouve que quand on l'écoute attentivement, en permanence, parce qu'il est intervenu dans pas mal d'endroits, au moins 4 fois.
Déplacements uniquement consacrés à la crise sanitaire.
Il essaie de faire en sorte qu'on essaie de vivre le plus normalement possible, en permanence. Il a ciblé, si vous voulez, il réagit de manière proportionnée, ciblée, graduée. Et c'est là où est le paradoxe que vous venez de souligner, c'est qu'il termine toujours, mais attention, nous ne sommes qu'au début. Mmh. Alors, si nous ne sommes qu'au début, là, Catherine vient de parler de l'Italie. L'Italie, il faut savoir qu'elle a reconnu qu'elle a été prise de vitesse, qu'elle n'a pas trouvé le patient zéro, plusieurs patients zéro.
Ce qui n'est objectivement pas le cas en France.
Qu'elle n'a pas pu remonter la chaîne de transmission et qu'à partir de là, si vous voulez, l'épidémie a commencé à galoper et le virus a dévalé la pente à une vitesse incroyable. Bon, c'est dans ce schéma qu'ils sont. Nous ne sommes pas encore dans ce schéma. Mais puisqu'elle est inexorable, puisque cette tempête, cette grande tempête annoncée pour l'instant, eh bien alors, on connaît de toute façon les mesures drastiques qu'il est en train de préparer vraisemblablement, c'est-à-dire le confinement total. Comme d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a, en tout cas c'est annoncé, une décrue en Chine et que Singapour s'en est sorti pas mal du tout. Mmh. On sait, toutes les études internationales vous disent que les enfants qui sont des réservoirs de virus, dès lors qu'on leur demande de rester chez eux, eh bien le virus finalement s'atténue et ne se propage pas. Mmh. Donc, on est à la veille, si je comprends bien, si c'est la grande tempête qui arrive en France, on est à la veille de ces mesures drastiques.
Alexandre Malafaille, peut-être que ça va vous paraître anecdotique, mais comment vous réagissez quand vous entendez le président de la République prendre le micro et déclarer, et comment dirais-je, donner en direct à la télévision des conseils pour se laver les mains, pour ne pas s'embrasser, c'est quand même assez.
Ça, c'est ça, objectivement à ce stade-là, parce que c'est les bons conseils, c'est les bonnes consignes, c'est
très
bien.
Il est dans son rôle.
Oui, on est dans un moment donné, il faut essayer de sensibiliser au maximum les gens sur les mesures de précaution. Je voudrais prendre un exemple qui montre bien qu'il n'y a pas de fatalité à ce que l'épidémie tout d'un coup devienne majeure et en plus fasse beaucoup de dégâts. Regardez Taïwan. On connaît un peu Taïwan de loin parce que c'est à côté de la Chine. Il n'empêche que ça fait partie quasiment. Enfin, c'est le monde chinois. Taïwan est à 120 km des frontières de la Chine. C'est 23 millions de personnes. Il y a des échanges énormes avec la Chine. 45 cas aujourd'hui, d'accord, et un décès. Voilà. Sauf que Taïwan a tiré toutes les leçons du SRAS en 2003 et à partir de là a mis en place un nombre de mesures en matière de précaution, d'anticipation, de centre de commandement de la santé. Et c'est vrai que Taïwan est un pays qui est très propre. Le résultat, c'est voilà, qu'ils n'ont pas subi cette épidémie. Et on va peut-être arriver, grâce aux mesures qu'on a prises en France jusqu'à présent, on va peut-être arriver en fait, à passer à travers cette épidémie.
À la freiner.
Après, par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a un point qui est très important. Moi, j'ai entendu les mots du président à la fois pour l'hygiène et en même temps ces mots un peu anxiogènes. Et il faut qu'on fasse attention parce que le vrai péril aujourd'hui, il est sur l'effet domino d'une crise, on va dire, économique majeure qui pourrait, pour le coup, plonger le monde dans un chaos sans précédent.
Alors, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes avec Patrick Martin.
Voilà, mais là, il y a un vrai sujet. Oui. Je trouve qu'on est un peu en train de jouer avec le feu parce qu'on a vu la bourse hier. Aujourd'hui, ça a remonté. Mais voilà, les risques d'une catastrophe sérieuse sont là.
Non, mais en ce qui concerne le président de la République, moi, je trouve qu'il a raison, si vous voulez, de nous donner ces recommandations, peut-être aussi simples, qui paraissent simples. Il a raison parce que c'est, en quelque sorte, il pousse les gens à un savoir-vivre ensemble. C'est une leçon de citoyenneté.
Oui, on peut.
Ce plan-là, je trouve qu'il est dans son rôle et qu'il le fait pas mal.
Oui, moi, ce que je trouvais assez drôle, c'est qu'il aille dans une maison de retraite, déjeune avec les pensionnaires, pour lancer le message « n'y allez pas ». C'est-à-dire que ne suivez pas mon exemple et n'allez plus voir vos anciens parce que vous pouvez les contaminer. J'ai trouvé ça assez bizarre.
Un petit mot quand même. Franck Riester, le ministre de la Culture, est infecté. Nicole Belloubet est confiné. Le directeur de cabinet du président est en télétravail. Il a des mesures de protection renforcées à l'Élysée et à Matignon.
un moment, peut-être que la machine de l'État va être bloquée, non, Charles ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça ?
Non,
vous
moi
faites
je
la moule.
Pas. Vous savez, c'est mon opinion. Je pense qu'il y a deux hommes qui dirigent la France, c'est le président de la République et le directeur du cabinet du Premier ministre. Et évidemment, le Premier ministre aussi. Donc, à partir de là, les autres, bon, ils font leur boulot, quoi. C'est des hauts fonctionnaires.
Non, ce qui m'inquiète le plus, alors bien sûr, c'est la première maladie. Bon, mais quand vous voyez qu'après les gilets jaunes, après les grèves, des secteurs entiers d'économie sont à nouveau impactés, l'hôtellerie, les traiteurs, la restauration, le tourisme,
parler dans la deuxième partie
le monde du spectacle. Non, mais là, c'est là où il va y avoir des morts, oui, hein, voilà, des entreprises qui vont mourir, peut-être même plus que de gens du coronavirus.
Que le sommet de l'État soit quelque peu affecté, ça n'a aucun moyen terme, ça ne change rien. L'État a une vraie continuité et le système est fait pour fonctionner justement dans une situation de crise et de stress.
On conclura sur ces paroles. Merci infiniment, les grandes voix. Merci d'être venu dans le studio d'Europe 1 et merci pour votre accueil aussi, tiens, au passage. Anissa.
Europe 1. À suivre, Lionel Gougelot.
Dans un instant, le journal de 19h de Théo Manval, bien sûr, avec à la une de l'actualité ce soir, le président chinois Xi Jinping qui est en visite à Wuhan, l'épicentre du coronavirus. Eh bien, nous serons sur place avec notre correspondant, Sébastien Le Belzic.
Vous écoutez Lionel Gougelot, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Lionel Gougelot, c'est votre grand journal du soir. Le programme de la prochaine heure avec vous, Lionel.
Après le journal de Théo Manval, 19h10, l'interview politique. Mon invité ce soir, Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. À 19h30, le coronavirus, encore lui, qui plombe le secteur du tourisme. Quelles conséquences pour les voyagistes ? Nous recevrons René-Marc Chicly, le président du syndicat des tours opérateurs, et Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1, qui vous conseillera, peut-être, si vous avez prévu un voyage qui risque d'être annulé. Et puis, 19h45, Mathieu Charrier, comme tous les mardis soir, nous conseillera les meilleurs films sur vos écrans. Demain.
Et vous pouvez déjà réagir et poser toutes vos questions au 39-21, votre grand journal du soir. C'est avec Théo Manval et Lionel Gougelot. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Le parquet financier a démontré depuis le début qu'ils allaient avoir cette approche extrêmement ferme. Il y a une approche qui est d'ailleurs plus de principe que de droit.
2 ans de prison ferme requis contre François Fillon. 3 ans avec sursis contre son épouse. Le parquet national financier frappe fort ce soir. Réaction de l'avocat de l'ex-premier ministre dans un instant.
Et si la Chine commençait à maîtriser la progression du coronavirus ? Mesures de confinement allégées aujourd'hui près de Wuhan après 45 jours coupés du monde.
La France compte, elle, plus de 1600 cas et un 30e décès ce soir. À quoi faut-il s'attendre pour le stade 3 de l'épidémie ? Les généralistes seront en première ligne. Et puis un deuxième patient guéri du VIH, nouvelle prouesse 10 ans après la première mondiale. De quoi susciter l'espoir, même si on le verra, la route reste encore longue.
La tendance météo, Anissa.
Eh bien, demain, c'est une journée très contrastée qui s'annonce sur la France. De la pluie et des nuages au nord, du soleil et des températures en hausse au sud. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Lionel Gougelot, Théo Manval.
Les procureurs ont frappé fort dans leurs mots cet après-midi lors des réquisitions. Dénoncé, je cite, l'appât du gain du couple Fillon, jugé pour détournement de fonds publics. Les peines demandées sont tombées il y a une heure. 3 ans de prison avec sursis pour Pénélope Fillon. 2 ans ferme contre l'ancien Premier ministre. 10 ans d'inéligibilité. L'avocat de François Fillon, maître Antonin Lévy, n'est pas surpris par ces réquisitions lourdes.
Le parquet financier a démontré depuis le début qu'ils allaient avoir cette approche extrêmement ferme. Il y a une approche qui est d'ailleurs plus de principe que de droit. Là, on a beaucoup de punchline, beaucoup d'éléments qui sont là pour être repris, pour bien fonctionner dans les médias. Beaucoup d'ironie, beaucoup de méchanceté, je trouve. Pas beaucoup de faits et surtout pas beaucoup de dossiers. Donc c'est bien de prendre des réquisitions lourdes, mais c'est dommage d'oublier qu'il y a un dossier qui est adossé. On ne cite pas beaucoup les multiples témoins qui ont été entendus. On balaye assez facilement les éléments qui ont été versés par la défense. Et venir justifier des réquisitions qui sont lourdes, évidemment, on ne va pas se le cacher. C'est dommage quand on a requis longtemps en ne citant pas d'éléments du dossier. Donc on attend avec impatience de pouvoir leur répliquer demain.
Maître Antonin Lévy, avocat de François Fillon au micro européen de Salomé Legrand.
L'autre grand titre à la une ce soir, c'est le coronavirus qui continue de progresser. 30 morts et plus de 1600 cas en France.
Emmanuel Macron était sur le terrain ce matin. Ce n'est que le début de l'épidémie dans l'Hexagone. C'est ce qu'il a déclaré depuis un centre du SAMU à Paris.
L'éclaircie, en revanche, elle pourrait venir de Chine. L'OMS annonçait hier que 70% des malades dans le pays étaient guéris. Les mesures de confinement près de Wuhan ont été partiellement levées aujourd'hui.
Et le régime chinois ne s'est pas privé pour en faire une vaste opération de communication. Sébastien Le Belzic est à Pékin pour Europe 1.
Des cris de joie et de la musique, c'est ainsi que la télévision officielle a présenté dans les journaux du soir la première visite à Wuhan du président chinois. Masque sur le nez, entouré de militaires en treillis, Xi Jinping a fait le tour de plusieurs hôpitaux et discuté avec des médecins et des infirmières. Une visite surprise qui symbolise un retour à la normale en Chine, où l'on annonce la fin prochaine de l'épidémie et la levée progressive des mesures de confinement. Mais beaucoup cependant restent prudents, comme ce commerçant à Pékin.
Ce qui compte le plus, bien sûr, c'est que l'épidémie soit sous contrôle. Il n'y a que ça qui pourra nous aider à reprendre le travail. On ne pourrait rien faire sans tous les médecins et tous ceux qui travaillent en première ligne pour lutter contre cette épidémie.
Car si la vie reprend peu à peu, la surveillance ne s'est pas relâchée. 160 000 vigiles sont mobilisés rien qu'à Pékin pour contrôler les déplacements et l'état de santé des 23 millions d'habitants de la capitale. Certains magasins ont pu rouvrir, mais sous très haute surveillance. Pas plus de 20 personnes par boutique et pas plus de 2 personnes par table dans les restaurants. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Les dirigeants européens sont actuellement réunis en visioconférence pour tenter de coordonner leurs efforts face à l'avancée de ce virus. Alors, la question ce soir, c'est de savoir si on va bientôt passer au fameux stade 3 chez nous en France. Il semble que le gouvernement s'y prépare.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ce stade 3? Eh bien, les généralistes seront désormais en première ligne. Écoutez les explications du docteur Nicolas Brugère, médecin généraliste depuis 35 ans à Bordeaux.
Alors c'est une nouveauté à laquelle il va falloir s'habituer. Le médecin traitant va pouvoir faire une téléconsultation. S'il a les outils, l'écran, c'est très bien. Mais quoi qu'il en soit, cette téléconsultation, même sans image, est une téléconsultation qui est améliorée, upgradée, parce que ce sera une téléconsultation spécifique entre le médecin qui connaît son patient et le patient qui est connu par son médecin. Et là, il peut y avoir des diagnostics qui sont faits. Les protocoles de prise en charge du coronavirus, ils sont très simples. Hein. 80% de la population va bien, 20% de la population risque d'avoir des complications. Il faut être vigilant autour des 6e à 9e jours. Donc, les téléconsultations consisteront à faire le diagnostic initial, et puis ensuite, au 6e jour, au 9e jour, rappeler les patients, tous les patients, et être encore plus vigilant pour ceux qui sont à risque. Et puis au 14e jour, quand on est sorti de la crise, on finit la téléconsultation. Ça surprendra les gens, mais ce sera une prise en charge de qualité malgré tout.
Le docteur Nicolas Brugère, généraliste à Bordeaux, il répondait à Stéphane Place.
L'Italie, elle connaît une aggravation record ce soir. 168 nouveaux décès en 24 heures. La Slovénie annonce fermer sa frontière. Air France, de son côté, suspend toutes ces liaisons aériennes avec les aéroports italiens.
Comme British Airways, comme Ryanair, on vous en parle depuis ce matin. Hein, depuis le début de la crise, des centaines de milliers de passagers ont annulé leurs vols.
Et pourtant, ces vols quasi vides sont bien souvent maintenus, car sinon les compagnies aériennes risquent de perdre leur slot, c'est-à-dire leur créneau horaire dans les aéroports à cause d'une réglementation européenne.
Pour mettre fin à cette situation un peu ubuesque cet après-midi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'elle allait agir vite.
Nous voulons que ce soit plus facile pour les compagnies de conserver leurs créneaux, même si elles n'assurent pas le vol à cause de la réduction du trafic. C'est une mesure temporaire. Ça va soulager l'industrie de l'aviation, tout particulièrement les compagnies les plus petites, et ça va permettre de diminuer les émissions de CO2 en supprimant ce qu'on appelle les vols fantômes.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propos recueillis par Isabelle Horry.
Et puis cette information qui nous parvient ce soir, il n'y aura pas de mise en examen dans l'enquête sur l'accident de car de Puisseguin, c'était en 2015.
43 morts, vous vous en souvenez sûrement, dans la collision entre un TER et un car scolaire engagé sur un passage à niveau. L'instruction est désormais close et la conductrice du bus, un temps suspectée de négligence, ne sera donc pas poursuivie par la justice.
Au volet sanitaire de la recherche médicale même, une nouvelle avancée que l'on peut signaler ce soir dans la lutte contre le VIH.
Un nouveau patient guéri, on dit bien guéri, pas en rémission. C'est seulement la deuxième fois que ça arrive. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Il y avait le patient de Berlin il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est le patient de Londres dont on annonce donc la guérison complète. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est une grande avancée dans l'histoire de ce virus puisque ce patient est considéré non pas comme en rémission mais bien guéri. Il s'appelle Adam Castillero, il a 40 ans et il a grandi au Venezuela. Il a contracté le VIH en 2003 et le médecin qui l'a soigné reconnaît qu'il est difficile d'imaginer que toute trace d'un virus qui infecte des milliards de cellules a été éliminée, mais c'est le cas. D'après les tests, il n'a manifesté aucun signe du VIH depuis 30 mois. Alors ça ne veut pas dire que son traitement peut être appliqué aux 38 millions de personnes qui vivent avec la maladie dans le monde. Le cas d'Adam Castillero est très spécifique. Il a eu en plus du VIH un cancer du sang. Pour le traiter, on lui a fait une greffe de moelle osseuse, un traitement très lourd et très risqué, avec des cellules souches prélevées sur des gens porteurs d'une mutation génétique rare qui fait qu'ils sont résistants au VIH. Mais grâce à son cas, les chercheurs avancent dans les stratégies de traitement du VIH.
Un peu d'espoir pour terminer ce journal. Merci beaucoup Virginie Salmen.
C'était le journal de Théo Manval. Merci Théo. On vous retrouve tout à l'heure à 19h30 pour le rappel des titres. En attendant, la météo, Anissa, deux ambiances, mais alors bien différentes hein, pour
exactement
demain.
Exactement. Demain, Lionel, ça n'aura rien à voir entre le nord et le sud de la France. On va commencer par le sud, on commence par les bonnes nouvelles, avec des Pyrénées jusqu'aux Alpes et surtout le pourtour méditerranéen jusqu'à la région lyonnaise et sur la Corse. Une très belle journée pour vous. C'est une belle journée, un beau mercredi de printemps avec... aucun nuage quasiment dans le ciel et un soleil très généreux. Sur l'Aquitaine, l'Aveyron, le massif central, le Jura, là le temps reste sec, mais le ciel sera un petit peu plus nuageux. Vous aurez la chance de voir le soleil percer dans l'après-midi. Et puis alors sur le reste du pays, c'est là qu'est la deuxième ambiance. Le ciel est très couvert avec des averses tout au long de la journée. D'ailleurs sur l'extrême nord, le Cotentin, la Normandie, les Hauts-de-France et la Bretagne, eh bien là les précipitations seront assez soutenues. Au nord, sur la côte ouest, demain, le vent souffle fort, encore jusqu'à 70 km/h. Au sud, le Mistral et la Tramontane vont se calmer un petit peu. Les températures, elles sont douces. Elles remontent 3 au Puy-en-Velay demain matin, 5 à Paris, 6 à Lyon, 8 à Belfort, 12 à Paris. Et puis alors, dans l'après-midi, c'est même très doux. 13 à 15 sur la moitié nord, 16 à 20 au sud et jusqu'à 24 degrés à Nîmes et Arles.
Mais c'est le printemps.
C'est le printemps, il arrive doucement.
Europe 1.
Votre grande journal du soir, c'est avec Lionel Gougelot sur Europe 1.
Dans un instant, l'interview politique d'Europe Soir, de votre grand journal du soir. Mon invité, Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
L'interview politique, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir avec Lionel Gougelot jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Lionel Gougelot, et c'est l'heure de l'interview politique. Vous recevez ce soir Lionel Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
Bonsoir Éric Coquerel. Député France Insoumise, effectivement. J'ai une première question pour vous, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez pris des nouvelles de vos collègues députés de l'Assemblée nationale qui sont à la fois touchés ou infectés par ce virus du coronavirus?
Ce dont on a des nouvelles par les médias, oui, même si ce n'est pas les plus proches de moi, mais on prend des nouvelles entre nous, notamment au niveau de France Insoumise, bien sûr.
Il y a une solidarité, finalement, parlementaire. Dans une situation comme celle-là.
Oui, mais c'est une solidarité avec tout le monde. Ouais. Je veux dire, chacun se sent solidaire. D'ailleurs, dans des moments comme ça, vous remarquerez, les gens font attention pour eux, mais aussi pour les autres.
Exactement.
Mais ça, c'est, j'allais dire que c'est le moment où on retrouve, l'unité, de la fraternité, qui remonte. Maintenant, c'est un sujet de discussion entre nous, de symptômes. Et de voir qui on a côtoyé à tel moment.
Alors
pas
justement,
vous
j'allais vous le poser cette question, Éric Coquerel. Est-ce que vous avez remonté votre agenda là, des jours précédents pour voir à quelle commission vous avez participé, etc.
Enfin, notamment là, j'ai pas participé à la fameuse commission culture, où manifestement il y a eu beaucoup de gens touchés, mais j'ai certains collègues qui ont participé et avec qui je me suis retrouvé à côté. Donc on se surveille.
Est-ce que vous craignez qu'il y ait d'autres cas parmi les élus? Vous m'avez dit, je viens de l'Assemblée nationale, qui est l'un des clusters de...
Non, il y en aura d'autres, oui, inévitablement. Chacun comprendra que l'Assemblée nationale, contrairement à ce que peut-être les Français pensent parfois, c'est un lieu ouvert.
Ouais.
Donc c'est un lieu qui vient de toute la France. Donc à partir de là, on se retrouve dans un espace, pour le coup, clos et confiné, notamment en commission, avec des micros. Vous voyez, comme je parle sur votre micro, donc vous-même de me dire qu'il n'était pas forcément désinfecté. Donc... manifestement, c'est une maladie, un virus qui est très transmissible, au moins. Ça, c'est une des choses qu'on peut constater. Donc voilà, on surveille. Le problème, j'écoutais tout à l'heure sur Mme Belloubet qui disait qu'elle avait eu juste un peu de fièvre, qu'elle avait pris son test, c'est qu'on entend des fois des messages un peu contradictoires. Les gens disent qu'il faut de la toux et de la fièvre. D'autres, on a l'impression... Bon, ça devient un peu compliqué. Et surtout qu'on est aussi dans une période où on a facilement des crèves, comme on dit, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué de savoir.
On va en parler justement. Les mesures gouvernementales, Éric Coquerel, vous semblent-elles adaptées à la situation? Est-ce que le système de soins français, on nous dit, et vous l'avez souvent dénoncé, la France Insoumise, que l'hôpital est malade, or les autorités semblent prêtes à accueillir justement les malades, les gens infectés. Est-ce que vous avez confiance?
Alors il y a deux choses séparées. Sur la façon dont ça se fait pour l'instant, je peux toujours me dire, tiens, à tel endroit, c'est des messages contradictoires, mais est-ce qu'on ferait mieux par rapport à une maladie nouvelle? J'en sais rien, très franchement. Donc, je ne jetterai pas la pierre. Puis, notre mouvement a toujours coutume, quand il y a quelque chose qui arrive comme ça de l'extérieur, à ne pas polémiquer. À attendre peut-être après pour tirer des enseignements, mais à ne pas polémiquer sur le moment. Ça, c'est une première chose. Après, par contre, il y a un problème. C'est que le service public, l'hôpital public, qui était déjà prête à craquer il y a quelques semaines, bon, bah là, c'est sûr que ça, se rajoutant, ça ne peut qu'amplifier le problème. Ça,
mais,
c'est évident.
Mais les médecins nous disent on est prêt.
Oui, mais les médecins et le personnel hospitalier, c'est des gens dévoués, de qualité. Heureusement, il reste quand même un hôpital public dans ce pays, malgré les coupes qui ont été faites dans ces budgets. Maintenant, à un moment donné, il y a le moment où vous ne pouvez plus, ou le moment où tellement épuisé que les choses craquent, les choses ne vont pas. Donc, ils sont prêts en termes de professionnalisme, en termes de qualité, en termes de conscience professionnelle. Mais n'empêche, on ne peut pas penser que les services des urgences qu'on connaît ou les hôpitaux qu'on connaît, si l'épidémie se propage de manière encore plus importante, ne subissent pas les contre-coups des politiques d'austérité qui ont été menées. Et je dois dire ce soir, j'aimerais enfin qu'on considère et que le gouvernement considère qu'on ne doit pas mégoter quelques milliards ou dizaines de milliards d'euros que par ailleurs on donne aux plus riches à travers par exemple la suppression de l'ISF pour l'hôpital public. Là, on voit bien que la santé, c'est quand même primordial.
En attendant, le gouvernement, lui, s'apprête à, alors je ne sais pas si ça sera des milliards d'euros, mais en tout cas, à déployer un plan massif en faveur des entreprises, parce que c'est sur le plan économique peut-être que les conséquences seront les plus graves.
Oui, alors sur le plan économique, avec un premier constat, bon, il peut y avoir un ralentissement économique, mais c'est que tout ça montre à quel point nos économies financiarisées, mondialisées, telles que nous les connaissons, avec justement des choses qui n'ont jamais été corrigées en réalité depuis la crise des subprimes et qui là se révèlent un peu plus brutalement, sont un non-sens. C'est un non-sens de constater, par exemple, que pour faire nos médicaments, on apprenne que les éléments sont en Chine, qu'on n'est pas souverain là-dessus. Donc, à la fois pour des raisons écologiques, de circuits courts, de relocalisation, d'arrêter le grand déménagement du monde qui coûte cher en question carbone, il faut aussi se dire qu'il faut très certainement finir avec ce libre-échange généralisé.
Vous pensez vraiment que ça va changer après ? Quand tout le monde sera, quand l'épidémie sera passée, quand tout le monde sera guéri, alors, le grand mouvement de la mondialisation repartira.
Non, j'ai coutume. Je pense que le néolibéralisme et tout ça ont pris des coups depuis quelques années et qu'en tout cas, idéologiquement, les gens ne pensent pas que c'est le paradigme idéal, surtout qu'écologiquement, on ne peut plus se payer l'idée qu'on va faire venir des matériaux lourds que l'on peut très bien produire dans un pays, d'ailleurs, ce qui coûte très très cher en termes de bilan carbone. Mais en plus de ça, là, ça révèle l'extraordinaire fragilité d'un monde qui est mondialisé à ce point-là. Oui. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des échanges commerciaux, évidemment, qu'on se comprenne bien, mais pas, j'allais dire, avec quelque chose qui théorise le libre-échange pour faire en sorte que les produits coûtent toujours moins cher et qu'on arrive à faire des économies toujours plus importantes sur les salaires, sur les revenus du travail, parce que c'est ça le problème.
Craignez-vous, Éric Coquerel, que le scrutin des élections municipales de dimanche prochain soit faussé par la peur du virus dans les bureaux de vote et la baisse de la participation?
Je ne sais pas. J'ai vu que c'était peut-être possible. Franchement, je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'arrive pas à l'estimer.
Le gouvernement a eu raison de maintenir le scrutin?
Oui, je crois. Oui. Parce que moi, je vois quand même des virologues qui s'expriment, qui expliquent que c'est une maladie grave à prendre en compte, etc. Mais n'empêche, on le dira aussi, ça tue pas plus de gens que la grippe, ouais, en France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. Donc oui, je pense que ce n'est pas plus problématique d'aller voter que de continuer à travailler, par exemple.
Dernière question. L'objectif affiché de la France insoumise, c'est de rattraper dans les urnes la bataille perdue au Parlement contre la réforme des retraites.
Perdue. Ils sont passés par le 49-3. Ils n'ont même pas pu le faire voter par le vote. Alors, ça montre aussi des faiblesses. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que plus les marcheurs, plus le gouvernement recevra de gifles électorales à ces élections, plus après le travail sera simplifié pour revenir sur cette retraite par capitalisation qui doit partir au Sénat, revenir à l'Assemblée. Ouais. Et je vous rappelle aussi une chose, c'est que ce qui est en train de se passer au niveau de la finance internationale, la fragilité des marchés, etc., eh bien, quand on favorise les retraites par capitalisation, ça montre aussi que ce n'est peut-être pas la bonne voie. Et ça aussi, ça devrait rentrer sur la question pour en finir avec ce projet de retraite qui est mal ficelé et régressif.
Merci. Merci Éric Coquerel d'être passé par les studios d'Europe 1, député France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Merci.
Europe 1. Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Lionel Gougelot.
Restez avec nous à 19h30. Le coronavirus, et oui, encore lui, mais sur un angle économique, le coronavirus qui plombe le secteur du tourisme. Quelles conséquences pour les voyagistes? Nous recevrons René-Marc Chicly, il est le président du syndicat des tours opérateurs. Et Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1, nous conseillera si vous avez prévu, par exemple, qui sait, un voyage qui risque d'être annulé.
Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Les invités de Lionel Gougelot vous répondent au 39-21 en direct ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Lionel Gougelot, tous les jours avant 19h30. Europe 1 prend un temps d'avance. On regarde ce qui va se passer demain. On écoute le monde changer, Lionel.
Et on va au plus près de votre actualité. Demain en France, journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, avec notamment cette cérémonie au Trocadéro à Paris en présence d'Emmanuel Macron. Bonsoir Frédéric Michel.
Bonsoir.
Frédéric, vous êtes, on le sait, notre correspondant à Nice. Et cette journée demain, elle va avoir un relief particulier à Nice, puisque on s'en souvient, l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais avait fait 86 morts et 458 blessés. Il ne faut pas oublier les centaines même de milliers de personnes qui ont été touchées psychologiquement. Ce sont les familles, Frédéric, et les victimes de ces actes terroristes, à Nice et ailleurs, qui ont souhaité qu'une journée d'hommage soit célébrée. Hein, c'est bien ça?
Effectivement, des cérémonies seront organisées dans différents endroits du pays, hein, pas uniquement à Paris. À Nice, la commémoration est prévue à 11h hein, sur la très belle et apaisante colline du château, où s'était d'ailleurs tenue quelques semaines après l'attentat l'hommage national. Pour de nombreuses victimes qui souffrent dans leur corps et leur chair, mais aussi pour leurs proches, cette journée décidée par Emmanuel Macron est essentielle. Sa valeur va au-delà du symbole. Anne Muris préside l'association Mémorial des Anges à Nice. Elle est la maman de Camille, une famille et une femme de 27 ans, pleine d'énergie et de projets, décédée lors de l'attentat du 14 juillet 2016.
C'est une façon de faire vivre ma fille et de les faire vivre tous, de les garder en mémoire et également pour sensibiliser le maximum de personnes à ce fléau qui est le terrorisme et à l'unité qui doit être la nôtre pour éviter que cela ne se reproduise. L'oubli des événements, c'est occulter notre histoire, c'est faire absence de pédagogie et de prévention quelque part.
Mais au-delà de cet hommage, Frédéric, les associations attendent aussi que l'on donne de la visibilité au projet hein, et aux évolutions qu'il porte.
Oui, par exemple, l'association Mémorial des Anges se bat pour que le futur lieu, le mémorial hein, consacré aux victimes du terrorisme, soit implanté à Nice. Mais surtout, sur un plan plus politique, ses membres militent pour la qualification des actes de terrorisme en crimes contre l'humanité, la mise en place d'un Nuremberg du terrorisme et la création d'un statut de parents endeuillés de la nation.
Merci Frédéric Michel. Merci Frédéric, notre correspondant d'Europe 1 à Nice. Demain dans le monde. Demain dans le monde, direction la Russie, avec vous, Didier François. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est Vladimir Poutine qui va, on peut le dire, redessiner hein, la constitution russe, mais alors à sa main.
Effectivement, donc le nouveau tsar de toutes les Russies était face à une équation politique a priori insoluble. Après 24 ans d'un règne sans partage, son quatrième et légalement son dernier mandat touche à sa fin en 2024. Impossible donc de se représenter à une présidentielle, mais il n'aura que 72 ans et ne voit pas pourquoi il devrait quitter le Kremlin après cette date. D'autant que lâcher le pouvoir et l'immunité qu'il procure n'est jamais un exercice sans risque. D'où ce nouveau tour de passe-passe constitutionnel, une idée simple et lumineuse, obtenir des parlementaires qui lui doivent tout et ne lui refusent rien, un vote formel remettant tous les compteurs à zéro. C'est ce qui s'est fait cet après-midi à la Douma. Ils ont effacé l'ardoise présidentielle de Vladimir Poutine, l'autorisant à se porter candidat en 2024, mais également, s'il le souhaite, aux élections qui suivront, ce qui lui permettra d'assurer sa propre succession jusqu'en 2036.
Alors, d'accord, mais il va lui falloir auparavant obtenir l'autorisation de la Cour constitutionnelle.
Oui, mais alors, là aussi, ça reste assez formel. On voit mal des juges choisis par le Kremlin s'opposer à la volonté de son maître. Ce serait vraiment une énorme surprise. Et Vladimir Poutine a déjà prévu une petite astuce sous la forme d'un référendum qui viendrait légitimer sa révision constitutionnelle et dans laquelle sont inscrits trois nouveaux articles. Le premier stipule que la Russie préserve la foi en Dieu que lui ont légué ses ancêtres. Le second, ça ratisse large, hein, qu'héritière de l'Union soviétique, elle doit louer la mémoire de son peuple dans la défense de la mère patrie. Et puis enfin, le troisième, interdit les mariages entre personnes de même sexe pour protéger la famille traditionnelle. Oui. Tout cela, voilà, au nom de la stabilité d'une Russie éternelle.
La Russie éternelle, selon Vladimir Poutine. Merci, merci Didier et François.
Europe 1. Et votre grand journal du soir sur Europe 1 avec dans un instant Lionel Gougelot.
Le rappel des titres est juste après 19h30. Le tourisme en grand danger dans cette crise du coronavirus. René-Marc Chicly, le président du syndicat des tours opérateurs, est notre invité dans ce studio également. Notre ami Roland Pérez qui répondra à vos questions en cas d'annulation de voyage pour cause d'épidémie.
Et n'hésitez pas, toutes vos questions, vous pouvez les poser dès maintenant au 3921 ou sur Twitter. On vous lit avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir jusqu'à 20h.
Europe 1.
Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Lionel Gougelot.
Et le rappel des titres de l'actualité, Théo Manval.
L'avocat de François Fillon dénonce beaucoup de méchanceté, mais pas beaucoup de faits. Le parquet national financier requiert 2 ans de prison ferme contre son client. 3 ans avec sursis pour Pénélope Fillon dans leur procès pour détournement de fonds publics. 1784 cas de coronavirus confirmés en France et 33 décès. Dernier bilan des autorités de santé ce soir. 98% des patients guérissent dans l'Hexagone, précise à l'instant le directeur général de la santé. Pas de mise en examen dans l'enquête sur l'accident de car de Puy-Seguin en 2015. Contrairement à ce que je vous disais, à 19h, cet accident qui avait fait 43 morts était bien la collision entre un poids lourd et un bus transportant des personnes âgées en Gironde. Bus qui s'était ensuite enflammé. Enfin, tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril prochain. De même que les 2 prochaines rencontres de l'équipe de France de foot à la fin du mois à cause du risque de coronavirus.
Merci Théo Manval. La tendance météo, Anissa. Conseil de prudence, hein, puisque 6 départements seront en vigilance orange demain.
Oui, effectivement, c'est Météo France qui a placé ces départements en vigilance orange. Là, actuellement, il y en a 6. Il s'agit du Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l'Eure, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et la Gironde. Ils sont placés en vigilance orange, crue et inondation, donc prudence dans ce secteur. Et demain, il va encore pleuvoir, surtout sur l'extrême nord de la Bretagne, aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie, le Cotentin. Les pluies seront présentes dès le début de la journée et puis elles seront soutenues au fil des heures. Elles vont s'intensifier. Tout au sud, des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur. Là, c'est une très belle journée de printemps qui vous attend. Pas de nuages dans le ciel et un très beau soleil. Et puis entre les deux, c'est un ciel gris avec des averses qui vont ponctuer cette journée. Les températures, elles sont douces. 13 à Brest demain après-midi, 13 à Lille, 15 à Nantes, 16 à Paris, 19 à Mont-de-Marsan et jusqu'à 24 à Nîmes.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Lionel Gougelot, avec vos invités qui répondent aux interrogations des auditeurs jusqu'à 20h39, 21, n'hésitez pas. On parle ce soir des conséquences de la crise du coronavirus sur le tourisme.
Le tourisme dans la tourmente du coronavirus. 2 invités dans ce studio ce soir. D'abord, René-Marc Chicly, bonsoir. Vous êtes le président du syndicat des tour opérateurs, c'est
bonsoir.
Bien ça
oui, exact.
Et avec nous en studio également, Roland Pérez, avocat d'Europe 1. Tous les conseils pour nos auditeurs qui se demandent peut-être ce qui va se passer dans les prochaines semaines, pour leurs prochaines vacances.
Ils ont raison de se poser la question. Bonsoir à
et
tous.
Quels sont les droits dont ils vont bénéficier en cas d'annulation? Mais bien sûr, mes premières questions, elles vont être pour vous, René-Marc Chicly, président du syndicat des tours opérateurs. Quel est le constat que vous faites d'un point de vue économique dans votre secteur d'activité depuis le début de cette crise?
C'est un constat en 2 volets. Le premier volet, c'est qu'avec la Chine, qui a été donc fermé pratiquement début janvier, déconseillé par tout le monde, pas simplement par le Quai d'Orsay d'ailleurs, c'était pas possible d'aller en Chine, avec les conséquences que ça a eu sur le reste de l'Asie, puisqu'on a eu des baisses quand même importantes, y compris sur la Thaïlande, et tout ça jusqu'à mi-février. Et puis depuis mi-février, c'est toutes destinations confondues, on est dans un traumatisme total, on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, vous avez des tours opérateurs qui sont en prise de commande, et c'est des prises de commande généralement sur le printemps, il était à moins 70%. Donc vous avez plutôt des clients qui viennent voir pour dire « je ne partirai pas » que des gens qui partent. Et vous avez dans des agences aussi des baisses de l'ordre de 30 à 50%, y compris le business travel.
Alors on va en parler justement. Quelques chiffres pour bien fixer les esprits. Dites-moi s'ils sont encore d'actualité. J'espère pour vous et votre secteur qu'ils ne se sont pas aggravés. 35 000 emplois menacés, 3 000 entreprises concernées. Menacées de mort.
Menacées de mort pour les plus fragiles. Tout dépendra de la durée de
l'épidémie.
De l'épidémie.
Et des mesures éventuelles de confinement qui pourraient s'élargir au pays.
Tout dépendra, on le voit aujourd'hui avec la Chine, au moment où on va être rassuré. Bon, parce que sinon on va faire des pronostics. Au moment où ce qui se passe actuellement en Chine, on va être rassuré, on rassure, on voit un président aller dans un endroit. Le jour où on va être rassuré, les clients vont revenir en agence. Mais quand, on ne sait pas.
Alors justement, vous m'y faites penser un instant pour tout vous dire. C'est un élément important dans votre secteur d'activité, celui de la confiance, quoi, finalement. L'aspect psychologique, même si on nous dit que d'un point de vue strictement sanitaire, ce virus n'est pas si dangereux, même si... Bon, il y a quand même cet élément de psychologie et de confiance qui compte.
Oui, sans avoir de la moindre prétention, on a constaté dans toutes les crises qu'on avait malheureusement 15 jours d'avance. Mes crises économiques comprises. Souvent on dit on peut être un indicateur. On ne l'est pas parce qu'on n'est pas des indicateurs reconnus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une perte de confiance de la part des consommateurs. Et en plus des dispositions qui ont été prises par les entreprises avec des destinations qui se ferment. Vous me posiez la question tout à l'heure en disant qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a arrêté le Vietnam, puisque le Vietnam demande des visas et puis vous avez en contrepartie, ils disent des visas pour tout le monde sauf pour les Français, les Allemands, etc. Donc, et l'Inde à partir de ce soir. Pareil, visa, pas de visa sur l'Inde, etc.
Encore quelques chiffres pour fixer les esprits, si vous le voulez bien, René-Marc Chicly. Les premières estimations pour le tourisme mondial, 22 milliards de dollars de pertes, plus de 100 milliards de dollars de pertes pour les compagnies aériennes, ça donne le vertige.
Ah, il y a de quoi. Ce qui a d'ailleurs s'est traduit, à mon avis, dans tous les indicateurs en matière de bourse, et il y a de quoi. Aujourd'hui, on a pratiquement les compagnies aériennes avec des avions à vide. Bon, il y aura des dispositions pour qu'ils puissent parquer leurs avions. Mm-hmm. Il y a des Air France a fermé aujourd'hui l'ensemble de ses destinations sur l'Italie. Demain, on ne sait pas. Donc, le transport aérien est en difficulté grave. Les hôteliers, c'est vrai qu'il faut négocier. On peut toujours négocier des prix de chambre en ce moment, mais c'est pas l'objectif. Les touristes ne sont pas présents dans les destinations, y compris en France. Et tout ça, ça s'accumule et ça fait un prix considérable.
On marque une première pause, si vous le voulez bien, et on se retrouve pour évoquer donc ce secteur du tourisme dans la tourmente pour cause de coronavirus, avec notre invité René-Marc Chicly, le président du syndicat des tours opérateurs. Roland Pérez est également en studio avec nous.
Et vous pouvez poser toutes vos questions pratico-pratiques au 39-21. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1 avec cette question ce soir. Les conséquences de la crise du coronavirus sur le tourisme. Vous êtes peut-être confronté à cette situation. Vous deviez partir en voyage. Vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21. Lionel Gougelot, vous recevez René-Marc Chicly, président des tours opérateurs, et Roland Pérez, notre avocat maison ici à Europe 1.
Et Mathieu a composé le 39-21. Bonjour. Bonsoir Mathieu.
Oui, bonsoir Lionel.
Je crois que vous dirigez une agence de voyage et vous êtes au cœur de la tempête en ce moment.
Alors, je dirige également une petite agence de réceptifs à Paris, ce qui fait que je m'occupe de tous les clients qui viennent à Paris.
Ouais.
Et donc, j'avais des groupes là prévus pour le match de foot demain soir, pour le rugby ce week-end. Donc tout ça, c'est bien sûr, c'est annulé. Moi, j'ai une petite taille, donc la petite taille fait que j'ai pas de gros frais fixes et de charges mensuelles énormes qui tombent tous les mois. Donc j'espère que je vais pouvoir tenir, mais c'est toujours la même question, c'est une question de timing. Si cette période d'annulation dure un mois, deux mois, est-ce que je vais avoir les reins assez solides et faire le dos rond pour tenir? Donc moi, je suis très inquiet. Je travaille avec des hôteliers en étroite collaboration qui sont en ce moment à Paris, je parle de Paris, à 15% de taux d'occupation, quand ils sont en général à cette période-là entre 40 et 50%. Donc c'est des énormes chutes de fréquentation qu'on risque de payer très cher. Donc je suis pour le moins inquiet. Et j'ai entendu le gouvernement dire qu'ils sont prêts, donc je veux bien, mais par exemple, j'ai essayé de trouver du gel hydroalcoolique, moi, pour mes groupes, pour leur donner lors des déplacements. Mm-hmm. J'ai fait 17 pharmacies à Paris depuis une semaine, pas une seule en a.
Comme beaucoup,
je suis étonné.
Ouais, comme beaucoup de Français, finalement, oui, effectivement. René-Marc Chicly, il est, comment dirais-je, il est parlant, le témoignage
absolument
de Mathieu, parce que... On parle de tourisme, ce n'est pas seulement les destinations pittoresques. Non, il y a aussi le tourisme d'affaires, les congrès qui sont annulés dans les grandes villes de France. Ça aussi,
toutes les manifestations sont pratiquement annulées aujourd'hui, ce que disait monsieur. Et c'est vrai que tout le monde est en train de calculer quelle est la trésorerie disponible pour tenir 3 semaines, 6 semaines ou 1 mois.
Roland Pérez, je me tourne vers vous.
Oui.
Il y a des tas de gens qui ont sans doute réservé des vacances, des voyages, des vols, peut-être pour les prochaines vacances de Pâques, puisque ce n'est pas si loin finalement. Que se passe-t-il si j'ai un vol, par exemple, qui est sur une destination considérée comme dangereuse ?
Alors, ça va être un petit peu au jour le jour que les voyageurs vont devoir se renseigner, parce qu'on réactualise notamment sur le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères la fameuse rubrique Conseil aux voyageurs, où je conseille vraiment tout le monde d'aller régulièrement. Cette rubrique est réactualisée et on voit les régions aujourd'hui qui sont fortement déconseillées, les régions à restriction. En fonction de ce que dit cette rubrique de Conseil aux voyageurs, évidemment, les compagnies d'aviation vont devoir aussi restreindre leurs vols, soit ou même annuler leur vol, et dans ces conditions, il n'y aura pas de difficulté, le vol sera purement et simplement remboursé. Il sera reporté en fonction également de la politique, on l'a vu d'ailleurs avec Air France, la politique pratiquée par la compagnie d'aviation.
Ouais.
Mais reste à savoir, pour ceux qui ont fait ces vols secs sur des régions où il n'y a pas encore de restrictions, où effectivement il peut y avoir des cas, mais on n'a pas envie de voyager, on nous dit que c'est déconseillé de voyager,
là,
pour autant
là.
L'avion aujourd'hui va partir, donc là c'est compliqué parce que le, la compagnie d'aviation, alors si elle a une politique commerciale, elle peut très bien reporter le vol.
Mais on ne peut pas demander un remboursement simplement parce qu'on a un peu peur.
Voilà. La peur, aujourd'hui, n'est pas prise en compte par personne. C'est-à-dire que cette peur qui existe et qui est légitime, elle est prise en compte, évidemment, humainement, avec les agences de voyage. Et là, quand on prend, justement, quand on a réussi à prendre, à contracter avec une agence de voyage, on a quelqu'un de physique qui est devant vous, un tour opérateur. On a quelqu'un de physique avec lequel on peut discuter, avec lequel on peut négocier, avec lequel on peut reporter. Quand vous avez acheté en ligne comme ça, parce qu'on a voulu évidemment acheter au meilleur prix, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir faire vraiment avec ce que disent les dispositions publiques autour des régions et des annulations éventuellement des compagnies.
Anissa, des réactions sur Twitter.
C'est justement la question d'Elsa sur Twitter qui dit « Je dois voyager avec ma maman de 70 ans. Le voyage n'est pas annulé, mais aujourd'hui j'ai des craintes, notamment pour elle. Puis-je annuler de mon propre fait avec un certificat médical ?»
Comment ça peut se passer, René-Marc Chicli, sur...
Si elle a pris une assurance, elle fait jouer l'assurance. Mais en général, il n'y a pas toujours de l'assurance. Non, si c'est simplement ce que disait Roland Pérez, si c'est simplement la peur, si elle annule, si elle a eu la... si c'est avec un tour opérateur, je pense très honnêtement qu'aujourd'hui, elle peut trouver une autre destination de son choix et payer un supplément s'il le faut et ne pas rentrer dans le jeu des frais. Où là, c'est compliqué, Roland Pérez le disait bien, c'est quand vous avez un vol sec. C'est-à-dire, derrière, vous avez de l'hôtellerie qui refuse de vous rembourser parce que c'est à destination. Il n'y a aucune raison pour lui. Il n'y a aucune raison particulière puisque les vols atterrissent, voire des circuits également achetés localement. Et là, il y a une perte pour le consommateur.
Oui, parce que lorsque vous achetez finalement un voyage dit groupé auprès d'un tour ou auprès d'une agence de voyage, là, on vous dit que c'est une loi de 2018, le Code du tourisme est très clair, on vous dit que des circonstances exceptionnelles, des circonstances inévitables peuvent vous amener à annuler ce voyage, et là, vous obtiendrez remboursement. Mais lorsque vous avez morcelé votre voyage pour acheter le vol au meilleur prix, et pourquoi pas, pour réserver vous-même un hôtel qui n'était pas dans un package, à partir de là, l'hôtel vous dit « mais moi, je vous attends, on ne sait pas une zone à restriction, oui, il y a des cas, mais comme il y a en France, si vous ne venez pas, c'est pour votre pomme, moi, je vous encaisse les arts que vous avez payés. » Donc, et pour répondre au tweet que vous avez reçu, Anissa, eh bien, il faut savoir que l'assurance annulation, elle ne peut pas couvrir la crainte de voyager ou la peur. C'est-à-dire, si vous êtes malade avant de partir, oui, si vous avez un certificat médical qui dit que vous êtes malade. En revanche, si elle a 70 ans, ce qui n'est pas un âge avancé, 70 ans, mais qu'elle a peut-être déjà elle souffre d'une affection ou qu'elle est une personne plus exposée qu'une autre et que du coup, allant dans une région où il y a beaucoup plus de cas de coronavirus, dans ce cas-là, effectivement, un médecin pourrait faire un certificat en disant qu'il est dangereux pour elle de partir dans cette région.
Une dernière question, René-Marc Chicli, je vais vous demander de répondre en quelques mots seulement. Les mesures gouvernementales qui sont décidées pour les entreprises, les PME, les entreprises françaises qui traversent une période difficile, est-ce qu'elles sont suffisantes pour votre secteur, celui du tourisme ?
Très rapidement, elles étaient suffisantes jusqu'à encore hier lors de l'annonce. Elles vont devenir beaucoup plus compliquées dans les semaines qui vont suivre. Il va falloir faire des allègements.
On l'a entendu dans le témoignage de Mathieu tout à l'heure.
Bien sûr, des allègements, des aides de trésorerie, elles étaient absolument nécessaires, absolument. Et je pense que le gouvernement a très bien réagi en la matière.
Merci René-Marc Chicli, président du syndicat des tours opérateurs. Merci Roland Pérez, on vous retrouve évidemment ce week-end dans la matinale de Bernard Porrette avec vos précieux conseils juridiques. Anissa.
Europe 1. Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec dans un instant Lionel Gougelot.
Eh bien, nous parlerons cinéma avec Mathieu Charrier qui va nous proposer une sélection des films immanquables, selon lui, sur vos écrans demain mercredi.
Restez avec nous sur Europe 1. Vous écoutez Lionel Gougelot, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Lionel Gougelot. Et comme chaque soir, jusqu'à 20h, on parle culture.
Et comme chaque semaine, on en vient aux sorties cinéma de la semaine avec Mathieu Charrier. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
Et on commence avec le film La Bonne Épouse, porté notamment par Juliette Binoche.
Ouais, je vous propose de revenir 50 ans en arrière. C'était hier ou presque à l'époque. Existait un petit peu partout en France des écoles ménagères. Alors le principe était simple, des jeunes filles qui venaient se former pendant 2 ans quand même, c'était long, pour être de bonnes épouses. Alors, il y avait 7 piliers, je cite, « Pour faire de vous, mesdemoiselles, la perle des ménagères, un rêve pour vos futurs époux. » Là, c'était Paulette van der Beek.
Autre époque.
Le personnage de Juliette Binoche. Oui, mais c'est pas si loin que ça. Hein. Personnage qui dirige donc cette école ménagère. Alors, dans le film, elle est assistée de Yolande Moreau. Mais quand Paulette se retrouve veuve, qu'en plus, le vent de mai 68 lui souffle dans le dos, ses certitudes vacillent, d'autant que son premier amour, qui est joué par Édouard Baird, revient dans le paysage. Alors, évidemment, quand Juliette Binoche, comme nous d'ailleurs, a redécouvert l'existence de ces écoles ménagères, elle s'est tout de suite engagée pour le film.
Dans chaque région, dans chaque département, il y en avait. C'était souvent des femmes qui, de milieux plus modestes, qui ne faisaient pas forcément des études. Et donc, il y avait ce moyen d'être éduquée et de devenir des bonnes épouses. Alors, il devait y en avoir différentes, avec différentes qualités. Mais l'idée toujours que la femme, et c'est la femme accueillante, qui sait s'occuper de ses enfants, de son mari, qui a une certaine soumission, qui sait tout faire, qui peut nettoyer, enlever les tâches, bêcher, coudre, cuisiner, et dans le lit aussi, c'est-à-dire qu'elle devait se mettre à disposition du désir de l'homme s'il le désirait.
Mais c'est fou, parce que c'était il y a 50 ans que ça s'est arrêté, ces choses-là. On a l'impression que c'est...
Ah bah oui, vous êtes malheureux maintenant, non ? Mais c'était hier, c'est ça qui est fou. Et c'est intéressant d'interroger ses grands-parents, ses parents, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait.
Voilà, La Bonne Épouse, une comédie sociale. Forcément, ça trouve un petit peu un écho dans tous les débats d'aujourd'hui.
C'est un peu léger quand même.
C'est très léger, ouais. C'est chantant, c'est coloré. Franchement, c'est un joli petit film, comme on dit, mais une jolie comédie que vous pouvez aller voir en famille, vous passerez un très bon moment.
Le deuxième film, Mathieu, c'est Radioactive, la nouvelle réalisation de Marjane Satrapi.
Popularisé grâce à son formidable Persepolis, je le rappelle, sorti il y a 13 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas. Alors Radioactive, c'est en fait un biopic consacré à Marie Curie, qui, vous le savez, a découvert avec son mari Pierre la radioactivité. Elle est ainsi devenue la première femme à recevoir le prix Nobel de physique, puis quelques années plus tard de chimie. Alors, c'est un biopic très très classique sur la forme. On commence dans le Paris de la fin du 19e siècle avec Marie, scientifique passionnée et émérite, qui n'arrive pas à mener ses recherches dans cette société patriarcale. Heureusement, elle va donc faire la rencontre de Pierre Curie, qui va tout plaquer pour l'aider. Ils vont monter leur propre laboratoire, ce qui aboutira au résultat dont je vous parlais. C'est donc le destin d'une femme que l'on va suivre, destin qui résonne aujourd'hui encore, explique la réalisatrice Marjane Satrapi, qui signe avec Radioactive déjà son 6e film.
Marie Curie, j'ai grandi avec cette femme comme exemple à suivre par ma mère. C'était mon modèle féminin, un de mes modèles féminins. Puis, il ne faut pas oublier, elle a quitté la Pologne parce qu'en Pologne, elle ne pouvait même pas faire des études scientifiques, alors que cette chose-là était possible à la Sorbonne en France parce qu'on voulait faire des professeurs. Et donc, elle a pu étudier les sciences en France. Et donc, évidemment qu'il y avait cette société masculine, mais là où j'aime bien aussi la mesure, c'est que l'homme dont il tombe amoureux, Pierre Curie, c'est un homme ultra-moderne. Vous imaginez, en 1880, quand même, il va avoir une femme qui soit sa collègue, son égale, etc., sa collaboratrice, c'est il y a 140 ans. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui voudraient avoir ce genre de femme. Et donc, c'est aussi leur histoire d'amour. Ça veut dire qu'elle, elle est moderne, mais lui, il est ultra-moderne.
Et Marie Curie mourra en 1934, alors que la première mauvaise utilisation, si je puis dire, de la découverte, c'est fait, bien sûr, Hiroshima, c'était en 45. Dans le film, elle est jouée par Rosamund Pike. Donc, je le redis, on est dans un biopic très classique, efficace, c'est le destin d'une femme. Évidemment, si vous êtes fan de science, ça va particulièrement vous intéresser. Il y a des très belles scènes dans des laboratoires, mais rien de plus. Ça s'appelle donc Radioactive.
Alors, on parle maintenant d'un premier film, Mathieu. Je crois que vous avez particulièrement aimé. Ça s'appelle Un fils.
J'étais effectivement très surpris par ce film qui est remarquable de tenue. L'histoire, elle est assez simple. Hein. Fares et Myriam qui roulent dans un gros 4x4 avec leur fils Aziz qui a une dizaine d'années. Ils sont sur les routes tunisiennes. On comprend qu'ils ont réussi, qu'ils font partie des notables du pays, ils ont de l'argent, mais leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste. Alors ils réussissent à s'enfuir, mais Aziz, le fils, est touché au foie, il faut l'opérer. Prélever donc un bout de foie de l'un de ses parents, les analyses sanguines sont faites, et on découvre à cette occasion, figurez-vous, que Fares n'est en fait pas le père d'Aziz.
Oula.
Et donc, que vont-ils faire? Comment vous réagissez si c'est votre enfant qu'il faut sauver mais que ce n'est pas votre enfant biologique. Est-ce que vous le dites? Est-ce que vous ne le dites pas?
Vraie question.
C'est une vraie question. C'est un film d'une heure et demie, tenu, serré. C'est très bien écrit, c'est bien réalisé. Alors, ça fait partie de ces petits films qui ne passent pas dans énormément de cinéma. Mais si ça passe dans un cinéma à côté de chez vous, allez-y.
Eh bien, je le coche. Un film signé Mathias Malzieu, le leader, bien sûr, du groupe Dionysos. Ça s'appelle Une sirène à Paris.
Et une nouvelle fois, Mathias Malzieu nous emmène dans son univers en chanson. Donc.
Je ne ressens plus de joie, les émois et moi. Terminé tout ça, je suis immunisé. Mon cher Gaspard, joli Gaspard, je suis une sirène, sirène, sirène.
C'est la sirène qui chante, je vous raconte l'histoire. Gaspard, sorte de crooner romantique, qui est donc incarné par Nicolas Duvauchel, il s'était promis de ne plus jamais retomber amoureux. lorsqu'il va tomber en sortant du cabaret péniche tenu par son père sur une sirène, véritablement dans la scène. Alors les vraies sirènes, vous savez, avec la queue de poisson et tout et tout.
Je vois, oui.
Et surtout, une voix, un cri qui fait que les hommes tombent immédiatement amoureux d'elle, que leur cœur s'emballe tellement ils sont amoureux et qu'ils meurent. Alors elle, évidemment, n'a jamais connu l'amour parce qu'à chaque fois, il meurt. Mmh. Vous me suivez? Sauf que Gaspard va la recueillir dans sa salle de bain, d'où la sirène de salle de bain. Cette sirène, un jeu de séduction va se nouer entre eux. Jeu évidemment dangereux parce que s'il tombe trop amoureux, bah, il meurt.
C'est
en même
toujours
temps, il a envie. Voilà. Ça s'appelle Une sirène à Paris. C'est doux, c'est romantique, c'est original. Ça vaut le coup.
On termine avec un film de science-fiction, Vivarium.
Ouais, alors là, ça a été récompensé à la semaine de la critique lors du dernier festival de Cannes. Moi, j'adore l'histoire. Un jeune couple qui recherche une maison à acheter. Un agent leur fait visiter un pavillon, vous savez, dans ce type de lotissement assez standardisé où toutes les maisons se ressemblent un peu. Mais l'agent, lors de la visite, disparaît et il se retrouve véritablement pris au piège du lotissement dont il semble n'y avoir aucun moyen de sortir. Mmh. Un matin, devant leur porte, un bébé dans un carton avec ce mot « élevez-le et vous sortirez ». Sauf que vivre à trois dans un espace confiné, sans voisins, sans rien, c'est très étrange. On vous livre la nourriture dans une sorte de carton le matin, mais vous ne savez pas d'où elle arrive. C'est à rendre fou, y compris le spectateur. Et c'est une réflexion sur nos vies standardisées, matérielles. C'est un film de science-fiction. Un peu auteur, je précise, mais c'est très intéressant pour ceux que ça intéresse, c'est le cas de le dire. C'est flippant, ça s'appelle donc Vivarium.
Réservé donc aux passionnés du genre.
Passionnés du genre, faut aimer la science-fiction et ce genre de film. Mais sincèrement, là, pour le coup, vous avez vraiment le ventre noué pendant une heure et demie. Quand vous dites, mais comment ils vont s'en sortir de ce truc-là, c'est pas possible.
Vous donnez envie, vous donnez envie quand même. Merci Mathieu Charrier.
Avec plaisir. Europe 1.
Et il est l'heure de retrouver Émilie Mazoyer, Lionel Gougelot.
Bonsoir ma chère Émilie.
Salut Lionel, comment ça va?
Ah bien, 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 je suis ravie de vous parler.
Ah bah écoutez, moi aussi, et je suis ravie de vous annoncer que ce soir nos invités, ce sont des rockers.
Oula.
Américains, venus exprès pour nous, pour vous, ce
Dites-nous
soir.
Tout.
On les aime depuis le milieu des années 90, Nada Surf. Ça, c'était leur premier tube, donc au milieu des années 90. Là, leur 9e album vient de sortir, et il est très très beau. Et puis c'est eux qui ont eu cette idée formidable pour contourner l'interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes. Ils ont un concert avec plus de 1000 spectateurs demain soir à la Cigale à Paris. Et bien ils ont coupé en deux. Ils feront un premier concert à 19h et une deuxième séance à 21h15. Malin.
Ah, ils sont malins, c'est super.
Malin. Merci. Comme un rocker. Voilà.
Merci Émilie, on vous retrouve tout à l'heure après les infos de 20h.
Merci.
Et rendez-vous demain sur Europe 1, le 18-20 pour écouter Le Monde Changer. Et bien sûr, Nathalie Lévy sera de retour aux commandes, Aïssa.
À demain. C'était une bonne soirée avec vous, Lionel Gougelot. À bientôt.